Pourquoi le sport est-il aussi bon pour notre corps que pour notre planète? Eh bien, réponse aujourd'hui avec mon premier invité de l'année. Allez, c'est parti! Bonjour, bonjour mes championnes et mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, de sport et surtout de mouvement et de mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger, prendre confiance en nous, bien vieillir et devenir des vieillards et des vieillards galopants. Si vous découvrez ou découvrez le podcast, il y a quelques années j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire à la reprise du sport, j'ai perdu 27 kilos et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et mon invité du jour est un peu l'invité idéal pour le premier épisode de cette nouvelle année et cette nouvelle saison du podcast. Le credo de Nicolas, c'est de se bouger pour son corps et de bouger pour la planète. Nicolas mêle sport, mais même course quotidienne dans son défi, santé, changement de vie et engagement pour une cause importante, notre planète. Nicolas est éco-aventurier, il fait du sport et parle d'écologie à travers ses défis. Le 3 septembre dernier, il s'est lancé pour un Tour de France fait de 110 marathons en 110 jours. Course le matin, sensibilisation des écoles l'après-midi, rencontre avec des élus, des agriculteurs, des entreprises, pour parler du climat, de notre planète et de son avenir. Je dis que c'est l'invité idéal car il représente les axes pour moi de devenir un vieillard galopant. Un esprit sain dans un corps sain sur une planète saine et vivable. Ensemble, nous allons parler de son parcours et de son engagement, des grands événements sportifs et de leur impact écologique, de comment et pourquoi il s'est engagé pour cette cause, de comment il a enchaîné 110 marathons en 110 jours et de son association. Vous êtes nombreux à me demander comment s'engager pour une association. En voilà une de plus dont le message et la cause vous parlera peut-être. Et avant de partager avec vous cette discussion passionnante, je fais une petite pause publicitaire car oui, c'est la pub qui me permet de financer ma vie de podcasteur sportif et de devenir moi aussi champion du monde de mon monde. Allez, c'est parti.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Bah écoute, en pleine forme et toi?
Eh ben écoute, en pleine forme aussi. Tu es le premier invité de cette année 2023. Alors déjà, bon, on va souhaiter les vœux à tout le monde, hein, souhaiter une belle année. Qu'est-ce que tu souhaites toi comme vœux aux gens quand tu les croises?
Qu'est-ce que je leur souhaite? Je leur souhaite beaucoup de... Alors déjà, honoré d'être le premier aussi de cette année 2023. Je leur souhaite beaucoup d'amour pour à la fois eux-mêmes, leurs proches et puis la planète, parce qu'elle en a bien besoin. Et parce que je pense que tout est lié et donc et sans amour en fait on n'arrivera pas en tout cas à agir concrètement pour tous ces sujets environnementaux qui me touchent beaucoup.
Alors c'était le premier de l'année, premier de la nouvelle saison aussi puisqu'on attaque la saison 5 du podcast. Alors t'as un invité un peu emblématique j'ai envie de dire parce que toi t'as couru tous les jours pendant 100 jours et en même temps t'as couru pour la planète et tu cours pour la planète, c'est des engagements importants. Moi je cours tous les jours depuis 525 ou 26 jours donc je comprends cette logique, alors j'en fais moins que toi. Mais cette histoire aussi de courir tous les jours et tout, c'est un truc dont on a très l'habitude, donc ça c'est un premier point. Et puis le deuxième point c'est la planète, parce que ici on a un concept de vieillard galopant, on veut devenir des vieillards galopants. Mais souvent ce que je dis c'est qu'un vieillard galopant c'est bien, mais c'est bien sur une planète vivable en fait, et vraiment dans un environnement vivable, un monde vivable, une planète vivable, un travail vivable, voilà, que le vieillard il a envie de vivre sur cette planète là. Et donc c'est pour ça que je dis que t'es vraiment emblématique de l'invité idéal pour lancer cette saison, parce que finalement tu réunis tout, c'est à dire l'habitude de courir, les défis, la planète, l'amour, enfin voilà, que dire de mieux, si ce n'est que d'où t'es venu cette idée de base déjà, parce qu'on va en parler, d'où te vient en fait cette ton défi, on va le repréciser d'ailleurs, quel était ton défi, d'où ça vient en fait. Comment tu... C'est quoi la genèse de tout ça en fait? Comment ça s'est venu, ces idées-là?
Ouais, bah c'est... Et puis je dirais même qu'on a une troisième connexion tous les deux, et je pense qu'on en parlera après, mais c'est aussi l'histoire de poids. Parce que moi j'ai été obèse et après anorexique, tu vois, donc bref, c'est... en tout cas, le sport m'a beaucoup aidé dans toute cette transition. Et non, écoute, t'es hyper content de réunir tous ces critères-là par rapport à ce que tu portes. Et donc, en gros, ouais, moi, je suis éco-aventurier, j'aime bien dire ça, éco-aventurier du dispositif Sport Planète depuis maintenant 2 ans. Et puis, c'est venu parce que Parce que je fais du sport depuis tout petit, parce que le sport justement m'a aidé de sortir de ces périodes d'obésité et puis d'anorexie. Au départ, handballeur. En plus, j'ai pas généralement les voix quand ils me voient, ils ont plutôt tendance à avoir un profil de handballeur plutôt que de coureur à longue distance. Et comment dire? Et en fait, moi après j'ai fait STAPS, et puis j'ai travaillé dans le management du sport, donc dans l'événementiel sportif, dans lequel j'étais de projet pendant 5 ans. Et voilà, j'adorais mon boulot parce que j'étais sur des gros événements sportifs comme le Tour de France, Paris-Roubaix, des gros matchs de foot où ma boîte en fait mettait, moi mon boulot c'était de mettre en avant la visibilité des marques, les bâches, les panneaux, enfin bref, et manager aussi les personnes qui mettent ça en place. Et puis en fait, je me suis rendu compte que j'adorais ça, mais en fait, quel sens ça avait en fait pour la planète? Je me suis vraiment interrogé en fait sur le sens de ma vie à un moment donné en me disant, en fait, t'adores le sport, mais est-ce que c'est comme ça si tu veux véhiculer les choses? Et donc, en fait, j'ai eu besoin d'arrêter aussi pour moi parce que à ce moment-là, j'étais, pense pas loin aussi du burn-out où je bossais beaucoup parce que j'adorais mon boulot. Et donc, j'ai eu besoin de prendre du recul. J'ai pété mon empreinte carbone, j'en parle souvent parce que je suis parti 6 mois en Nouvelle-Zélande. Et puis, en Nouvelle-Zélande, j'ai fait énormément de rando. Et c'est vrai qu'en rentrant, je me suis dit, t'adores le sport. Je faisais de la course à pied aussi depuis un moment, depuis 10-15 ans, mais de façon un peu plus loisir. J'avais fait des marathons quand même aussi quand j'ai bossé dans l'événementiel sportif, justement. Et puis, comment dire? Et puis, donc voilà, en rentrant en avril 2020, je me suis dit, maintenant, qu'est-ce que tu peux faire concrètement avec tes jambes pour agir? Et peut-être parce que j'avais fait beaucoup de fois le Tour de France cycliste en bossant dessus, je me suis dit, pourquoi tu ne ferais pas un Tour de France en courant pour interpeller les gens? Et au départ, c'était sur la partie thématique déchets, parce qu'en fait, quand je courais, ça me saoulait de voir autant de déchets par terre. Et donc, j'ai commencé à promouvoir le plogging. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai fait une première éco-aventure l'année dernière, qui était un Tour de France en courant, du 14 août 2021 jusqu'au 18 décembre 2020. Et cette année, j'ai voulu aller plus loin en mettant un message plus clair. Donc au final, ça a été d'ailleurs 110 marathons en 110 jours pour le climat. J'ai poussé un peu plus pour battre un record symbolique Guinness. Alors même si là, il y a un Anglais d'ailleurs qui vient faire 365 marathons en 365 jours.
Et oui, il l'a fait, il faut le dire, il l'a bouclé, hein.
Ouais.
Et ouais, il y a un Anglais qui a fait 365 jours, 365 marathons en 365 jours pour lever 1 million de livres. J'ai vu contre le cancer, je crois, et tout. Donc t'es plus au Guinness. T'as eu le record pas très longtemps alors.
Si, en fait, je pense que je vais quand même avoir, je l'ai pas encore officiellement, mais en fait, si tu veux, c'est parce que, mais c'est ce que je dis souvent, en fait, des gens tarés, il y en a plein, hein, qui ont fait plus que moi, il y en avait déjà aussi, mais c'est juste qu'ils le font pas homologuer au Guinness, et lui, il va pas le faire homologuer au Guinness parce que c'est tout un bordel aussi, clairement, pour faire homologuer au Guinness. Mais voilà, moi, je le fais homologuer au Guinness vraiment pour la symbolique, pour dire, voilà, il y a un mec qui a fait 110 marathons en 110 jours pour le climat, pour ses enjeux environnementaux, et c'est de se dire qu'en fait, je fais pas que courir. En fait, c'est pas juste faire un marathon par jour, c'est courir le matin et l'après-midi, faire des sensibilisations, aller surtout là, pour moi, la performance, c'est de relier les deux, de faire les actions de terrain, d'aller voir les jeunes, d'aller voir les élus, etc., pour les sensibiliser sur tous ces enjeux-là. Donc voilà un peu la genèse de ce projet, quoi.
Tu dis que tu avais fait péter ton empreinte carbone en partant en Nouvelle-Zélande, mais finalement, si tu pars 6 mois en Nouvelle-Zélande, tu l'as fait péter à l'aller-retour. Bon, ça fait un grand voyage, mais t'es pas comme ceux qui partiraient une fois au Maroc, une fois à New York, une fois je sais pas où, une fois je sais pas où, et qui part tous les 15 jours, tous les 3 semaines ou tous les mois, y compris d'ailleurs dans les grands sportifs que l'on peut croiser, dans ceux qui font du trail, etc.
Ah non, bien sûr, t'as raison, c'est souvent ce que me disent aussi les gens. Et puis moi, ça m'a surtout permis de prendre conscience des choses. Moi, par exemple, personnellement, je prendrais plus l'avion de ma vie parce que c'est mes engagements maintenant environnementaux qui font ça. Mais en effet, c'est clair que je pense quand même que, notamment quand t'es jeune jusqu'à 30, 35 ans, il est important quand même de se faire un ou deux voyages longs, en tout cas quand tu restes longtemps, pour justement aussi voir ce qui se passe ailleurs et te remettre aussi en question. Et donc, c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup aidé. Donc, je le dis toujours symboliquement parce que voilà, maintenant, je prendrais plus l'avion. Mais en tout cas, je pense que c'est important aussi pour voir après ce que plus tard tu veux véhiculer, quoi. Donc voilà, puis c'est que ouais, ce voyage en Nouvelle-Zélande m'a beaucoup marqué parce que justement là-bas ils font hyper attention à la préservation de la planète, en tout cas au niveau de la nature, même si écologiquement il y a quand même des choses à redire, hein, faut pas se mentir, mais moi en tout cas c'était hyper important et inspirant et je pense que j'en avais besoin. Et donc voilà, c'est un peu de là aussi que tout est parti ensuite, et donc ouais, c'est cool.
Tu parlais du blogging, on en a déjà parlé, mais alors c'est un sujet qu'on a... En fait, j'ai plein d'invités qui le font, mais qui le disent pas, en fait. Et c'est vrai qu'ils ramassent comme ça au fur et à mesure. Alors, j'ai une pensée pour le Taz, je crois que je l'ai eu il y a 2 ans comme invité, qui lui, vraiment, le dit, il part toujours avec un petit sac, il ramasse toujours, il revient toujours avec un truc et tout, il en a beaucoup parlé sur ses, en photo. C'est vrai que quand on regarde un petit peu sur les chemins, moi, je râle, mais combien de fois je râle en voyant des trucs par terre, des traînes, il y a plein de trucs... Y compris d'ailleurs qui viennent des trailers avec des sticks. Alors ça m'énerve. Bon, ça m'énerve pas autant que les chasseurs qui laissent leurs cartouches. Mais franchement, qu'est-ce que t'as ramassé? Enfin, t'as des trucs qui t'ont surpris quand même quand tu ramasses des trucs là sur tes parcours, sur tes chemins.
Ouais. Ah bah cette année, du coup, c'est vraiment sur le climat. Donc cette année, j'ai pas fait de ramassage parce que le but c'était vraiment d'orienter le message sur le climat. C'était surtout l'année dernière. Mais ouais, non. Après, sur les chemins, oui, tu ramasses toujours des fois même des trucs assez surprenants. Alors le truc classique, c'est la canette ou le Capri-Sun aussi. Ça, c'est assez dingue aussi. Bref, de voir toujours ces mêmes déchets ou même des bouteilles plastiques. Puis ouais, après t'as des trucs un peu plus fun. Moi, tu vois, sur un ramassage de déchets, j'ai déjà ramassé. D'ailleurs, je m'en sers souvent, mais je les ai perdus. Enfin, je vais les récupérer là sur suite à mon tour. Mais j'avais ramassé des AirPods. Tu vois, typiquement quelqu'un qui avait. Alors ça devait être de la perte, hein. Mais ça que c'est. Ouais, t'as des déchets. T'as des déchets insolites. Maintenant, t'as plus en plus aussi de cartouches d'azote là, justement avec lesquelles aussi c'est des gaz un peu hilarants. T'en as beaucoup maintenant. T'as des grosses bonbonnes aussi. Donc ouais, c'est surtout en fait c'est ce que tu disais. Alors t'as des chemins où tu sais que t'as des gens qui passent, donc ça peut être énervant, mais tu sais que c'est les gens qui jettent de leur voiture. Et puis après, en effet, des fois même t'es sur des chemins de rando ou des chemins de trail et là je pense que ça t'énerve encore plus en effet de tomber sur des gels ou des choses comme ça, parce que tu dis bah en plus c'est des gens qui pratiquent, tu vois, qui profitent de la nature et qui font pas attention, quoi, et c'est quand même leur terrain de jeu, quoi, donc c'est encore moins logique, quoi.
Ouais, et puis c'est vrai que bon, on a eu des images, on avait parlé beaucoup au Kian Journal qui jetait dans les poubelles, ceux qui reviennent chercher des trucs qui font tomber. Des fois, on peut faire tomber des choses, ça peut arriver. Mais c'est vrai que bon, les bouteilles, moi, tu vois, il y a un petit passage où je passe là. Souvent, je vois les jeunes. Je pense le soir, ils viennent faire s'amuser, faire la fête ou je sais pas quoi, tu vois, et tout. Et il y a souvent des trucs aussi, des trucs de McDo, tu vois, tous les papiers comme ça aussi, que les gens... Tout ce qui est accessible en voiture, en plus, d'ailleurs, j'ai remarqué. Et ils marchent 100 mètres, 200 mètres, et puis ils sont venus avec un sac, mais ils laissent le sac là où ils... comme si c'était le... En plus, il est plus léger que quand ils sont venus avec. Donc, c'est un peu énervant. Toi, le lendemain, tu as l'impression vraiment de devoir faire le ménage. Enfin, c'est comme si t'arrivais derrière une fête et que tu vas faire le ménage alors que t'as pas été invité en plus à leur fête. Ils nous pourrissent notre nature. Bref, bon, c'était la petite parenthèse, mais qui est importante quand même, parce que après, on parle du plugging là sur nos chemins. Quand on regarde les plages, l'état des plages, des mers, hein, tous ces trucs-là, c'est fait partie de la planète. On voit vraiment les problématiques avec ça. On va revenir sur ta histoire de marathon là quand même. À quel moment, enfin, c'est quoi? Pourquoi tu te dis, je vais faire 110 marathons en 110 jours? Enfin, moi, je veux bien, tu vois, courir pour la planète, etc. Moi aussi, je veux bien courir pour la planète, je peux mettre un t-shirt vert, tu vois, je peux faire plein de choses. Mais pourquoi courir 110 marathons?
Pourquoi 110 marathons? C'est, alors, attends, je vais vite déconnecter ça, Chiari, mais c'est pas grave, ça va. Ouais, c'est, le but vraiment, c'est, justement, c'est de faire un expo sportif pour interpeller les gens, en fait, sur ces thématiques, quoi. C'est, en fait, c'était suite au premier tour, en fait, l'année dernière, où je faisais à peu près 38 km de moyenne. L'année dernière, déjà, c'était 127 jours, c'était 38 km de moyenne. J'avais prévu 5 jours de repos. Et à l'époque, mes potes m'avaient dit, mais t'es complètement cinglé. Et ils m'ont dit après, ils pensaient qu'au bout de 3 semaines, j'aurais arrêté, quoi. Sauf que voilà, c'était tellement porteur que ça s'est hyper bien passé. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de gens qui m'ont fait la remarque en me disant, mais c'est cool, 38 km de moyenne, mais pourquoi tu fais pas un marathon par jour? Ça serait logique. T'es quasiment à presque un marathon. Et vu que j'aime bien les défis et que, comment dire, et que j'avais vu que l'année dernière, j'avais pris 5 jours de pause et au final, ça allait très bien. Je me suis dit, bon, bah, allez, marquons le coup encore plus. Et là, vraiment, allons sur cette thématique climat, plus sur les déchets, parce que c'est vrai que l'année dernière, j'ai beaucoup été affilié à un mec qui a fait un tour de France en ramassant les déchets, ce qui est bien aussi, hein, parce qu'il faut parler de cette cause-là. Mais je voulais aussi qu'on parle plus largement de la cause climatique et de tout ce qu'on peut faire aussi. Et donc, voilà, du coup, je suis reparti assez vite, hein, parce que je suis reparti le 3 septembre, donc je suis reparti 7 mois après. C'était d'ailleurs plus ça qui me faisait un peu peur, en fait, en me disant, bah, j'enchaîne de rapidement, quoi. Et Et comment dire? Et donc voilà, c'était juste vraiment, moi c'est vraiment mon but en fait, c'est de faire des exploits sportifs pour essayer de sensibiliser un maximum de personnes, notamment les gens qui sont pas convaincus. Ça c'est vraiment aussi ce que moi j'essaye de faire avec l'association Univers Sport, voilà, qui est une association que j'ai créée depuis 1 an et demi, qui a fait plein d'actions partout en France et notamment dans la région de France d'où je suis originaire. Et c'est de se dire, bah en fait, servons-nous du sport pour sensibiliser, parce que si tu crées juste des événements qui sont liés aux enjeux environnementaux, on se tape tous dans la main, enfin 75% des gens qui viennent, c'est des gens qui sont déjà convaincus. Et le but vraiment avec ce que je fais, c'est d'essayer d'aller chercher les autres, en fait, ceux qui, bah, ouais, y a plein de sportifs qui sont pas encore convaincus, et puis il y a plein de gens, je trouve que le sport, c'est quelque chose qui fédère, tu vois, qui réunit, et donc ça permet d'aller chercher d'autres personnes pour aller vers cette cause-là, et puis aller vers des choses aussi plus simples, quoi. Donc là où en plus on est dans un monde, moi, qui est beaucoup justement évolué dans l'événementiel sportif, où on est dans quelque chose qui va vraiment dans le sport business, bah moi c'est un truc sur lequel aussi j'essaye de changer les choses, parce que du coup il est où le tout premier du sport dans ça, il est plus là, quoi. Et il faut arrêter de penser au business avant le reste, quoi.
Bon, je pense que t'as pas dû croiser la route d'Emmanuel Macron pendant ton tour là.
Alors, j'ai pas croisé la route d'Emmanuel Macron, mais j'ai croisé la route de sa mini des sports. Et ça, c'était hyper intéressant parce qu'encore une fois, tu vois la trace que tu peux laisser. Donc, je suis allé au ministère, j'ai échangé avec elle. Là, on a porté un texte d'ailleurs qui est dans ma bio Instagram que vous pouvez tous et toutes signer, parce qu'on va continuer là, vu qu'on a une entrée dans le ministère, on va y aller. Et peut-être qu'Emmanuel Macron, je le rencontrerai en 2023. En tout cas, je pense qu'il est, avec la ministre, il est au courant de ce que je fais, quoi. Mais c'est clair qu'il y a du taf aussi politiquement. Et puis c'est dommage parce qu'ils sont au courant de tout ce qui se passe, et moi je suis pas là pour faire de la politique, mais en tout cas c'est dommage parce que quand on voit les, d'ailleurs tout le monde a un peu ri par rapport à tout ce qu'il a dit à ses vœux, mais c'est vrai que c'est, voilà, c'est dommage qu'ils disent qu'en effet qui aurait pu prévenir de ce qui se passe là au niveau du dérèglement climatique, mais en fait on le sait depuis très longtemps, donc ouais, ce qui est dommage, c'est que du coup, je trouve qu'il décrédibilise la cause en fait en faisant ça, parce qu'il nous prend un peu pour des bébêtes alors que les gens ne sont pas bêtes, quoi. Donc voilà, c'est juste ça. Mais en tout cas, on est là pour aller alerter. C'est ça, hein, tout le sens aussi du message que moi je porte, c'est que je vais rencontrer des élus, c'est que je vais rencontrer des écoles, c'est que je vais rencontrer des entreprises. Donc c'est aller, je veux dire, tout le monde peut agir, qu'on soit citoyen ou entreprise ou élu. En effet, ça ira encore plus vite si les élus et les entreprises se bougent un peu plus. Mais les citoyens ont des vrais pouvoirs de persuasion pour changer ça aussi. C'est pour ça que je porte ça, parce que c'est vrai que tu as des gens qui te disent, bah oui, moi je fais rien parce que les élus font rien. Mais dans ces cas-là, personne ne fait rien. Donc c'est pour ça que c'est bien d'aller sur le terrain, et je trouve qu'utiliser ses jambes et aller rencontrer les gens, bah, il n'y a rien de tel. Le terrain, c'est tout, quoi.
Et puis, faut le dire aussi, c'est que tu es jeune, hein. Je t'ai même pas demandé ton âge d'ailleurs.
Bah, j'ai 30 ans, tu vois, je vais avoir 31 ans le 10 janvier, donc ouais, je suis encore un jeune.
Ouais, mais c'est important aussi d'avoir. C'est important l'âge, parce que je pense aussi bon, il y a beaucoup d'élus qui sont âgés, qui ont aussi une population. C'est du marketing, la politique. Et comme c'est les vieux qui votent, et qu'à un moment donné, tu vas faire des propositions pour ceux qui votent, hein, donc il y a une espèce de truc comme ça et tout. Et moi, je vois dans les discussions de famille en disant, ouais, mais bon, maintenant, ça c'est trop tard, etc. On a un peu le foutu pour foutu aussi, des fois, qui arrive un peu dans le truc en disant, et puis il y a les autres qui font pas ça, puis moi je ferais ça, mais pourquoi moi je ferais ça que le voisin fait pas ça, enfin on a tous ces trucs là comme ça un petit peu. Et ce qui est intéressant, c'est de dire, bah finalement, bah moi je vais faire une action, mon voisin fait une action, tout le monde fait des actions, et je sensibilise des personnes, toi tu fais avec tes jambes, mais après chacun peut prendre un petit peu comme il le souhaite l'action. Bon, là on va parler de tes jambes parce que c'est tes jambes qu'on tourne là-dessus, mais c'est important aussi de montrer aux élus, aux ministres, à plein de gens, aux entreprises et tout, que chaque citoyen se bouge et a envie de faire avancer les choses. Parce que c'est comme ça qu'ils finiront par bouger, qu'ils arrêteront de nous prendre pour des bébêtes aussi. Mais c'est vrai que ce discours d'Emmanuel Macron, moi j'ai pas regardé, mais alors par contre mon Instagram il s'est agité, hein. Enfin, franchement, encore ce matin j'avais des caricatures, etc. Donc j'ai dit, ouais tiens, ça tombe bien qu'on enregistre, tu vois. J'ai dit, on est vraiment dans le sujet, parce que c'est dingue en plus ce truc-là. Et puis t'as couru en plein pendant la Coupe du Monde. Je t'ai pas demandé si tu avais regardé la finale de la Coupe du Monde.
Non, je l'avais pas regardé. Non, non, mais c'est clair que c'était en plein dedans, parce que ouais, donc je suis parti de 3 septembre au 21 décembre. Là, j'ai fini au Parlement européen, Et en effet, tu avais toute cette histoire de Qatar, mais au-delà du Qatar, c'est parce que souvent les journalistes, en plus, ils me titillaient par rapport à ça, parce qu'en effet, mais au-delà de ça, moi, je boycotte pas le foot, j'adore le foot, mais c'est moi, c'est les institutions que je critique, c'est la FIFA, tu vois, c'est même pas le Qatar en fait en soi. Bon, le Qatar, il est ce qu'il est, mais comment déjà tu peux attribuer une Coupe du Monde qui se fait là-bas, et puis la FIFA, je veux dire, ils font toujours des trucs aussi délirants, et puis après, c'est toutes les organisations, enfin, je veux dire, il y a eu la Coupe du Monde aussi en mois de décembre au Grand Bornand où on a amené de la neige, enfin, tu vois, c'est de se dire, et de toute façon, le texte, on l'a écrit dans ce sens-là, hein, c'est adapter le sport au changement climatique, au respect de l'intégrité de la nature. En fait, c'est pour moi maintenant, on peut plus faire un événement sportif ou en tout cas quelque chose qui tourne autour du sport sans mesurer les conséquences que ça a sur l'environnement. Tu peux plus, enfin, je veux dire, c'est pas possible. En tout cas, rien que si égoïstement tu penses à ta pratique sportive, rien que si tu penses à ça et sans penser aux autres choses, bah, tu dis qu'en fait, en faisant ça, c'est le serpent qui se mord la queue, parce que bah, le ski, je veux dire, et là, il y a plein de stations qui sont en train de fermer, en tout cas, qui peuvent pas vivre parce que bah, il y a pas de neige, quoi. Et c'est pas en mettant de la fausse neige, etc., ça accentue, ça accélère encore plus le sujet, quoi. Donc, ouais, c'est. Et en effet, chaque pas compte, et c'est pour ça que j'aime bien utiliser le sport, mais tout comme l'art, tout comme plein de choses viennent sensibiliser tous ces élus, etc. Et c'est hyper important. Et c'est aussi pour ça que moi, j'interviens beaucoup dans les écoles, parce que avec l'association aussi, on aime bien créer les liens intergénérationnels. Tu vois, tu parlais des plus vieux, etc. Et moi, je suis persuadé que les gamins, tu vois, nous, entre adultes, bon, si tu donnes de l'information, généralement, ils vont dire, ah, non, mais attends, t'es moralisateur, Nani, alors que tu donnes juste de l'information. Hein. Alors que si ça vient de la bouche d'un enfant, généralement, ça fait plus bouger les choses, tu vois. Et les gamins, c'est ce que je leur dis, tu vois. Je leur dis, il y a trop de gens qui attendent trop de choses de vous aussi, parce que maintenant, ils ont aussi le poids du truc. Hein. En gros, maintenant, c'est facile. Les adultes, on dit, bon, bah, vous, les jeunes, c'est vous qui allez agir plus tard, parce que, voilà, c'est votre avenir. Sauf que les jeunes, ils vont pouvoir faire tout ce qu'ils veulent dans 5 ou 10 ans. Si nous, on n'agit pas concrètement maintenant, il y a des choses sur lesquelles ils ne pourront plus revenir. Et ce qui est génial avec les jeunes, par contre, c'est que c'est des passeurs de messages, quoi. Quand moi, je vais dans les écoles, je sais très bien qu'après, ça va rebondir auprès des parents, auprès des grands-parents. Et voilà, c'est comme ça qu'il faut y arriver ensemble, quoi.
Ouais, et puis sur le sport, enfin, on parlait tout à l'heure du foot, mais il y a pas beaucoup de fédérations qui sont vraiment à l'abri en plus de faire des conneries. On parlait du ski avec la neige au Grand Bornand, cette fameuse neige artificielle qui est venue. Parlons du rugby, par exemple, qui organise une Coupe d'Europe où on fait venir des équipes d'Afrique du Sud pour jouer des matchs en Europe, en disant, on va même faire l'inverse, hein, puisque bon, bah, ils sont dans le même fuseau horaire, donc c'est pas un problème. On va traverser le monde entier en avion pour faire jouer un match de rugby pour jouer de la Coupe d'Europe, ce qui est complètement dingue. Et je connais des gens de rugby qui ont décidé de boycotter la Coupe d'Europe en disant, mais c'est complètement dingue. Et tous les sports, en fait, quand on regarde le rythme, le nombre de voyages, etc., ça, il y a, je sais pas si, je voulais faire un jour un épisode sur l'empreinte écologique de certains sports. Tu parlais tout à l'heure du Tour de France, mais le Tour de France, le nombre de... Alors, je ne peux rien dire cette année parce qu'il passe en Auvergne. Moi, je suis en Auvergne. Puis tant qu'on attendait qu'il passe en Auvergne, on a 3 étapes cette année en Auvergne. Alors, nous, nos hôtels, ils sont contents. Alors, allez, franchement, je peux te garantir, la montée du Puy-de-Dôme, ça fait 30 ans que ça s'est pas fait. Et justement, pour des raisons, d'ailleurs, puisque c'est classé UNESCO, il n'y a plus de voitures qui montent pour protéger le site et pour protéger la planète. Mais on se dit, on va quand même faire monter les vélos, mais pas la caravane ou je sais pas quoi. Mais d'un côté, les hôteliers, ils disent, ouais, mais nous, on est contents quand même. Tous ces coureurs qui viennent, tous ces suiveurs, ces bagnoles, etc., nous, ça nous fait de l'argent et tout. Enfin, tu vois, ces grands événements sportifs quand même, c'est le discours des hôteliers et tout. Il n'y a aucun qui va se plaindre qu'il y ait autant de monde qui va venir, tu vois, en Auvergne pour le Tour de France.
Ouais, parce que derrière, t'as toute une économie, et ça, c'est un vrai sujet, mais c'est comme la société en règle générale. Hein. De toute façon, le sport, c'est un bon reflet de la société. De toute façon, il faut changer ce modèle économique, il faut créer des nouveaux récits, en fait, savoir ce qu'on fait. Tu vois, pour moi, le PIB, notamment, c'est un indicateur qui est complètement révolu, parce que faut dire quand même que quand tu fais un accident de voiture, au final, ça rapporte plus au PIB. Enfin bref, il y a des trucs délirants sur ce système-là, mais en fait, faut inventer ces nouveaux récits et aussi dire que c'est pas compliqué de consommer moins, etc., et puis de consommer différemment, de consommer plus local. Et pour moi, c'est pareil pour les événements sportifs. En fait, faut consommer, faut aussi faire des événements qui soient plus locaux. Et le Tour, moi, j'y ai bossé longtemps, en effet, j'y vais encore d'ailleurs pour faire de la sensi. Et pour l'instant, on va pas se mentir, pour moi, ils font plus du greenwashing qu'autre chose. Et je le dis souvent, en fait, et c'est pour ça que là, dans le texte qu'on a écrit, on aimerait éco-conditionner. Tu vois, moi, j'aimerais faire des quotas. Enfin, je trouve pas ça normal que sur le Tour de France, t'aies 4 hélicos VIP qui tournent tous les jours pour justement montrer aux partenaires le Tour de France du d'en haut, alors que ça surconsomme et qu'il n'y a pas besoin de ça. En effet, t'as plus de 400 voitures sur le Tour alors que t'as 200 cyclistes. Enfin, elle est où la logique? Donc, ouais, faut revenir à quelque chose de plus simple. Et pour le coup, j'ai rien contre le Tour, parce parce que le tour, c'est, et ce qui est cool avec le tour, c'est que c'est hyper populaire. Donc le jour où le tour prendra des vrais engagements et fera passer des vrais messages aussi au niveau de la planète, ce sera génial parce que ça peut être un super vecteur. Et d'ailleurs, cette année, moi, je vais leur proposer quelque chose parce que je les connais bien. Donc on va essayer de faire quelque chose avec eux parce que je pense qu'il faut s'appuyer aussi sur l'image du tour. Mais à côté de ça, justement, il faut qu'ils s'engagent vraiment. C'est cool de mettre des... Pour l'instant, ils mettent que des pansements, quoi. C'est de se dire, ah oui, on nous parle des voitures, donc maintenant, on met des voitures électriques. Sauf que les voitures électriques, c'est bien, mais si t'en mets autant, en fait, c'est pareil. Et autour, t'as, pour avoir notamment été pilote de temps en temps, t'es à 2 personnes par voiture, dans des voitures de 5, tu vois. Et ils disent, oui, mais c'est parce que moi, je dois arriver à 9h, l'autre, il arrive à 10h. Ouais, mais en fait, c'est juste, je veux dire, si tu vois pas, c'est pas problématique si t'attends 1 heure. Enfin, donc voilà, mais encore une fois, c'est parce qu'on sait, mais c'est la société en règle générale, hein. En fait, on est dans une société de confort et donc, du coup, on est tous dans un confort qu'on s'est imaginé, alors que c'est pas forcément inconfortable de marcher autrement, quoi. Donc ouais, il y a un gros taf, et au niveau des événements en règle générale, comme tu le disais, on est plus sur une tendance où il faut amener des pays, des gens qui viennent de l'autre bout du monde et où il va falloir réfléchir autrement. Et d'ailleurs, Paris 2024 a des gros enjeux à ce niveau-là. Je pense qu'ils vont faire beaucoup de choses parce qu'ils ont un service qui bosse pas mal. Ils veulent diminuer par 2 l'empreinte carbone des JO. Mais à terme, c'est pareil. Ils vont faire un maximum. Mais si on veut respecter ces fameux accords de Paris, être à plus 1,5 degré d'ici 2100, les JO, va falloir les voir autrement aussi. Il va falloir les voir aussi plus locaux. Peut-être imaginer des fan zones dans les différents pays pour faire voir aussi aux gens comment ça se passe, mais peut-être plus chez eux, tu vois. Parce que c'est vrai que l'empreinte carbone, enfin, en tout cas, ce qui pollue le plus dans un événement sportif, c'est les déplacements. C'est 90% de ce qui pollue le plus, c'est tous les déplacements, avions, voitures, etc. Et donc c'est pour ça qu'il faut réfléchir autrement, mais tout en passant quand même des moments. Enfin, je veux dire, on a tous des événements qui sont hyper cool autour de chez nous et qui nous empêchent pas de faire des trucs de dingue, quoi. Et rien qu'en France, c'est aussi pour ça que moi d'ailleurs je reste en France et que j'ai fait 2 tours de France entre guillemets. C'est se rendre compte aussi de la richesse qu'on a, du territoire, des cultures, des paysages. Enfin, c'est juste incroyable la chance qu'on a, quoi.
Mais tu vois, il y avait un truc qui m'a interpellé, et ça, c'est par exemple, tu sais, le journal de La Réunion a boycotté la Coupe du Monde au Qatar en disant justement l'empreinte écologique. Bon, il y a aussi les nombres de morts sur les chantiers. D'ailleurs, il y aurait une vraie enquête à faire sur le nombre de morts qu'il y a en France sur les chantiers, dans les trains, que le travail génère de morts en France aussi, parce que ce serait intéressant aussi que les gens regardent un petit peu le chiffre dans la réalité. Mais ça, c'est un autre passage. Ça, c'est mon côté, pour avoir été harcelé au boulot pendant des années, qui a laissé une marque un petit peu vive. Et le journal de La Réunion, donc, ils boycottaient la Coupe du Monde au Qatar. Et en même temps, ils sont sponsors de la Diagonale des Fous. Tu sais, ils sont partenaires. Et je me disais, il y a quand même une espèce de truc qui pour moi cloche, parce que la Diagonale, c'est une magnifique course. Et tu vois, moi, je regarde mes trucs, je me dis, ah, mais pour mes 50 ans, j'aimerais bien la faire, etc. Mais toi, tu me dis, moi, je prends plus l'avion. Donc toi, la Diagonale des Fous, je te demande même pas si un jour t'as prévu de la faire, puisque à moins d'y aller à la rame, ou en bateau, ou je ne sais pas comment tu peux y aller. Pour l'instant, je ne vois pas comment.
Peut-être en
voilier. Ouais, ou en voilier, ou je ne sais pas comment tu veux y aller. Bon, et attends, et j'ai eu un invité qui a traversé l'Atlantique à la rame. Alors pourquoi ne pas aller à La Réunion à la rame, hein? Après tout, ça te fera un joli projet. Et je me disais, mais en même temps, quand même, enfin, la Diagonale des Fous, le nombre de coureurs, les familles, les avions, etc., que ça apporte, il y avait un espèce de paradoxe, tu vois, sur le coup. Alors, je les ai un peu titillés, ils m'ont jamais répondu sur la question. Journal de La Réunion, mais ces grands événements, tu vois, comme je me disais, l'UTMB aussi, amener autant de monde à Chamonix, à l'UTMB, au pied du Mont Blanc. Tu vois, il y a un moment donné, je me dis, mais est-ce que c'est vraiment sain pour la planète?
Ah non, mais encore une fois, tout ce modèle-là, il doit être revu. Enfin, moi, tu vois, je suis très proche de Xavier Thévenard, qui est un super mec engagé, tu vois, lui aussi, qui a décidé il y a 3-4 ans de plus prendre l'avion. D'ailleurs, ça a fait soulever des plein de débats après, par la suite, et c'est génial, parce que Xavier, c'est vraiment un mec génial. Et sur l'UTMB cette année, tu vois, il a fait des sensibilisations sur la fresque du climat avec Kylian Jornet aussi. Donc voilà. Et en effet, il y a tout ce modèle à repenser. En effet, la Diagonale des Fous, moi, il y a quelques temps, tu m'en parles. Enfin, c'est vrai que ça te donne envie, hein, d'y aller. Encore une fois, se dire que quand t'es pas trop, enfin pas trop vieux, je veux pas limiter au niveau de l'âge, mais en tout cas te dire que peut-être tu vas faire un voyage longtemps à La Réunion et que en parallèle tu vas aussi faire la Diagonale. Pourquoi pas, mais c'est clair qu'à terme, ce système-là, et d'ailleurs le système de l'UTMB, il est complètement délirant maintenant, parce qu'ils se sont fait racheter par Ironman, et c'est de se dire, en fait, en gros, alors sans le dire, mais en fait, tu peux gagner des points UTMB facilement en voyageant un peu partout dans le monde là pour avoir tes points UTMB. Et en fait, elle est pas, enfin, c'est pas logique, quoi. Donc, c'est clair que, enfin, pour moi, de toute façon, ces organisations-là, ça va tenir encore 2-3 ans. Mais après, ils pourront plus parce que de toute façon, on va éco-conditionner tout ça. Il y a vraiment, je pense que les élus, etc., mine de rien, ça va bouger aussi. Et on pourra plus enfin, on pourra plus faire faire semblant. Déjà, on le sait. Sauf que bah, on fait encore semblant de pas le savoir. Et puis en s'achetant des bonnes consciences. C'est pour ça aussi que j'ai pas cette année, je l'ai fait spécifiquement pas sur les déchets, parce que les déchets c'est cool, mais t'as plein de gens qui te disent bah ouais, je suis écolo parce que je recycle mes déchets. C'est cool, hein, c'est cool, mais le gros problème c'est tout le reste en fait, c'est notre façon de consommer. Donc encore une fois, je veux pas briser le rêve de plein de personnes qui veulent faire des courses de fou, mais des courses hyper jolies, etc. On en a quand même pas mal un peu partout, et tu peux les faire aussi en allant en train. Enfin, je veux dire, il y a plein de solutions maintenant aussi qui sont viables et où t'as pas forcément besoin de prendre l'avion, quoi. Donc ouais, c'est tout un calcul, mais en tout cas, t'as aussi des athlètes de haut niveau. Bah, y a Adam Smith aussi, qui est un trailer là, justement, qui a refusé d'aller au Mondiaux en Thaïlande, en se disant bah voilà, moi mon empreinte carbone elle est déjà de 6 tonnes, je l'ai déjà largement dépassée par rapport à ce que je devrais, et du coup j'y vais pas. Donc je pense qu'il y a un vrai, il y a des vrais engagements qui sont en train de se faire. C'est pas facile pour tout le monde, parce qu'en effet, il y a des gens qui disent bah non, je veux pas m'interdire de faire ça. Et moi, mon but c'est pas de dire aux gens je vous l'interdis, mais c'est juste d'essayer de comprendre, en fait, déjà de comprendre la logique et de se dire que si on veut préserver, tu vois, la Diagonale des Fous, si on veut préserver aussi tout ça, tous ces paysages, eh ben peut-être qu'il faut se questionner aussi sur notre façon d'aller faire du sport, quoi. Parce que sinon, après, bah peut-être qu'en 2100, je veux dire, les rapports WWF, ils disent bien que d'ici 2100, si on est à plus de 2 degrés, on va perdre quasiment 24 jours d'activité sportive. Et bah donc là, qu'est-ce que tu choisis, quoi? Qu'est-ce que tu choisis? Donc soyons pas égoïstes et pensons déjà si on est égoïste, pensons à notre pratique sportive, et plus globalement pensons à nos enfants, à l'avenir, et de se dire que eux aussi ils ont le droit d'être sur une planète qui est complètement vivable, parce que en soi la planète elle sera toujours là, hein, c'est juste les conditions de vie dessus qui seront compliquées, quoi.
Tiens, je vais me faire l'avocat du diable, mais ton tour là en courant, il a généré de l'empreinte carbone aussi, t'en as généré des de l'empreinte.
On en génère. D'ailleurs, on a partagé, on a fait un visuel justement sur l'empreinte carbone de ce tour, en disant aussi qu'on avait gagné 2 tonnes de CO2 global par rapport à. En fait, on a juste comparé à si on avait fait ce tour justement en voiture. Et puis moi aussi, j'ai une alimentation, je suis végétarien, donc pareil, ça aussi, c'est un gros impact sur l'impact carbone de ce que tu fais. Et donc, bien évidemment, mais c'est pour ça qu'on le fait de façon très responsable. C'est-à-dire que moi, les personnes qui m'accompagnent pour transporter le matériel, tout est fait en vélo. D'ailleurs, c'est aussi une grande aventure humaine. Hein, ça, c'est fou. Enfin, je veux dire, moi, je tiens à en parler parce que c'est un véritable travail d'équipe. Et donc, voilà, il y avait un vélo relais où il y a plus de 40 personnes qui se sont relayées dessus. Voilà, notre but aussi, c'est de pousser les gens à venir au maximum en transport en commun aussi et de venir longtemps pour ça. Enfin, voilà, on essaye. Moi, j'essaye à mon échelle de le faire de façon plus responsable. Et puis après, c'est surtout bah, toutes les graines que tu plantes autour de toi, tous les gens à qui j'ai demandé de faire des repas végétariens. Enfin, c'est tout ça qui fait que j'aime pas parler de compensation, mais en tout cas. Je veux dire, ce que je l'ai fait juste avec mes jambes, j'ai pas pris la voiture, etc. Donc en fait, mon empreinte, elle est entre guillemets nulle. Et alors peut-être qu'elle l'est un peu, on va pas se mentir, mais en tout cas, par rapport à l'impact que ça a, c'est rien, quoi.
Non, mais c'est vrai, en fait, c'était un peu pour titiller, mais d'autant que j'ai le bilan carbone sous les yeux de tes 108 marathons. C'est vrai, tu dis, l'économie, elle est substantielle, hein, par rapport à si t'es su en voiture, etc. Parce que ça représente quand même, c'est quoi, 2 allers Paris-New York, t'as mis, c'est ça?
Ouais, c'est ça, c'est un aller-retour Paris-New York, quoi. C'est 2 tonnes de CO2, parce qu'en fait, ce chiffre-là est assez. C'est marrant, en fait, qu'on tombe sur au final ce chiffre-là, mais 2 tonnes, en fait, logiquement, c'est l'empreinte carbone qu'on doit avoir, chaque individu doit avoir d'ici 2050. En fait, si on veut respecter ces fameux accords de Paris, la moyenne actuellement, elle est à 9 tonnes de CO2 en France. Donc, il y a quand même un gros palier à passer. Et puis, tout ne dépend pas des individus, il y a aussi les services publics, hein. Et en fait, l'objectif, c'est d'arriver tous à 2 tonnes, ou en tout cas, d'arriver à une moyenne qui soit 2 tonnes. Et en effet, 2 tonnes, c'est pour ça qu'on dit souvent que, en gros, si tu te fais un aller-retour Paris-New York, en fait, t'as déjà pris ce que tu devais prendre sur une année. Et donc, ouais, c'est quand même significatif. Et en plus, c'est assez équilibré parce qu'il y a la partie transport où je sais plus, je crois qu'on a 980 kg de CO2 économisé. En fait, on a vraiment comparé à une voiture thermique au fait de rouler sur un vélo électrique. Voilà. Donc, c'est même pas en courant. J'ai pris quand même aussi, bien évidemment, en fonction le vélo qui m'accompagnait. Et puis après, aussi, t'as toute la partie alimentation. Aussi, là, c'est un gros impact sur, encore une fois, je dis pas à tout le monde qu'il faut arrêter de manger de la viande. Je dis juste qu'il faut réduire. Et moi, en effet, de mon côté, je suis végétarien. Et donc, en effet, ça aussi, ça limite beaucoup ton impact carbone.
Ouais. Et j'ai vu, alors il a pas partagé encore le bilan, mais il va le faire dans pas longtemps. Hugo Ferrari, qui est un trailer que certains doivent connaître, enfin qui est assez connu quand même, parlait de son, a publié sur son empreinte carbone. Il disait il y a 7,1 tonnes cette année, et notamment il disait que les autres années il était à beaucoup moins, mais en fait il voyageait plus. C'est vrai que le confinement avait baissé nos pratiques. Tous ceux qui ne pouvaient plus, on pouvait plus voyager, il y a moins de déplacements, etc. Il y a moins de courses aussi pour ceux qui font de la course. Il y a plein de trucs qui faisaient que les empreintes carbone avaient un peu baissé, et puis on se rend compte que quand on reprend les activités, notamment tu vois dans le sport, lui il a fait, alors je sais plus comment il a fait de course, il en a fait un paquet, il en a fait quelques-unes, on disait bah finalement dès qu'on rajoute du voyage, grosso modo, hein, c'est-à-dire que dès qu'on prend la voiture, dès qu'on prend l'avion, dès qu'on prend tous ces moyens de déplacement pour aller à des courses à droite à gauche, dans son cas, tout d'un coup, bam, ça repart très rapidement. Et puis tu parlais aussi de l'alimentation. Alors lui, son alimentation, je sais pas trop quelle en est, mais ça représente quoi l'alimentation? Tu disais, je suis végétarien. On sait que la viande produit a besoin de beaucoup beaucoup d'eau et une grosse empreinte. C'est ce point-là qui est important.
Ouais, c'est notamment la viande, ouais, notamment la viande rouge qui émet beaucoup de CO2 par rapport. Alors encore une fois, hein, je tape pas parce que les agriculteurs y galèrent suffisamment et je sais que c'est vraiment galère pour eux, et j'en ai rencontré pas mal aussi pendant mon tour, et puis en France, t'as quand même des agriculteurs qui ont encore leur petit élevage, etc. Donc je tape pas forcément sur eux, mais c'est il y a aussi toute cette fameuse agro-industrie où en effet, t'as des gros élevages qui sont tués aussi dans des conditions qui sont pas ouf. Et en fait, c'est l'empreinte carbone en fait de la viande rouge, elle est hyper importante parce que notamment on nourrit aussi les bêtes. Bon, il y a aussi tout ce qui est méthane, etc. Les gaz qu'ils peuvent émettre, mais qui sont plus dans les rôles d'ailleurs que dans les pets. Mais bref, au-delà de ça, c'est de se dire comment dire. Que aussi les gros élevages, bah justement, c'est des élevages qui peuvent pas forcément aller brouter dans les prairies. Et donc, en fait, ce qu'on leur donne, c'est notamment du soja. Et ce soja, il vient d'où? Il vient d'Amérique du Sud. Et qu'est-ce qu'on a fait en Amérique du Sud? On a brûlé des forêts entières pour cultiver ce soja. Et du coup, après, t'as les transports pour amener. Donc, voilà, c'est de se dire aussi, à quel point c'est délirant, en fait, de se dire, alors qu'en France, on a aussi plein de cultures aussi qui pourraient nourrir les bêtes, sauf que ça, on l'exporte aussi. Donc, en fait, on peut avoir tout en interne, mais en termes d'autonomie de façon alimentaire, il y a aussi un gros boulot. C'est que les agriculteurs font un travail de fou, mais au final, des fois, pour pas nourrir tant que ça au local, moi, je vois dans la région de France, on est autonome à 17%. Donc, il y a quand même et c'est un peu partout pareil en France. Hein. Donc, ouais, il y a un gros point sur ça, et il y a des choses qui sont en train de changer. L'agriculture aussi, elle est en train d'évoluer, mais encore une fois, on a du retard. Mais c'est clair qu'en tout cas, ce qu'on dit souvent quand tu fais, d'ailleurs, j'invite tout le monde à calculer son empreinte carbone, là, c'est pas compliqué. Il y a un site qui s'appelle Nos Gestes Climat, qui est fait par l'ADEME, et ça vous permet de compter votre empreinte carbone individuelle et de voir vers quel champ vous pouvez améliorer. Et c'est que les premiers efforts qu'on peut faire, c'est notamment au niveau des transports et au niveau de l'alimentation. Parce que déjà, rien que le fait de baisser sa consommation de viande, ça peut avoir un bel impact. Encore une fois, sans dire qu'il faut arrêter, mais déjà diminuer, c'est bien, parce que c'est vrai qu'on a quand même tendance à, et même globalement, en fait, à trop manger en France, et notamment aussi de la viande. Donc, et pour le coup, c'est ce que je donne souvent comme exemple. Et puis, je ne suis pas encore... peut-être que je deviendrai aussi un peu plus vegan à un moment donné. Enfin, peut-être que j'utilise encore aussi quand même pas mal de produits laitiers, et j'aurais du mal à m'en passer. Mais en tout cas, comment dire... je sais plus où je voulais en aller, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de sportifs de haut niveau aussi qui le disent, hein, qui sont t'as Djokovic, t'as des gros athlètes comme ça qui sont véganes par exemple, et qui ont des très bonnes performances. Et t'as même des athlètes qui se mettent juste à ce régime alimentaire parce qu'ils vont être plus performants. Et c'était aussi intéressant cette année, parce qu'en réalité, je suis végétarien depuis un an et demi, je crois, de montrer qu'on pouvait aussi faire 110 marathons en 110 jours, en se disant, t'as pas besoin, en fait, de manger de la viande pour faire 110, et du poisson pour faire 110 marathons en 110 jours.
Il y avait eu alors je pense que tu avais dû voir le documentaire Game Changer, mais qu'il y avait une grosse polémique dessus quand même, c'est que financé quand même par l'industrie du poids, quoi. du poids, des poids qu'on mange, pas du poids qu'on ouais. prend en poids, qui vantait justement ce régime végétarien. Mais c'est vrai que le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on voit un truc, on peut trouver le schmilblick derrière pour dire oui, mais attention, ils ont un intérêt, ils ont un intérêt, ils ont un intérêt. C'est pas facile de faire son choix, en fait, quand on regarde tout ça, en fait. Parce que, par exemple, je reprends l'exemple, comment il s'appelle, Hugo Ferrari, c'est sur le fameux site Nos Gestes, Nos Climats. Mais il dit, en fait, aussi que finalement, on pourrait dire, est-ce que le simulateur n'est pas biaisé en lui-même, tu vois? Et déjà, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais si le simulateur est biaisé, peut-être que c'est pas comme ça, etc. Donc, on a toujours une tendance à rejeter la faute, en fait, sur, oui, le simulateur, mais les autres, ils voyagent quand même. Si moi, j'arrête de voyager, tu vois, tu pourrais dire, ouais, moi, je prends plus l'avion, et les autres, ils continuent à le prendre. C'est dégueulasse. tu vois, ce truc-là. Alors que si on raisonne comme ça, personne n'avance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que chacun agisse, quoi.
Ah bah c'est clair, bah ça c'est clairement c'est le discours de l'inaction. Tu sais, quand on sensibilise sur le climat, notamment avec la fresque, t'as plein de gens aussi qui te disent ouais, mais tu me dis ça, mais regarde, en Chine, ils polluent beaucoup plus que nous, aux États-Unis c'est pareil. Mais du coup, ça c'est le discours de l'inaction climatique. En effet, peut-être qu'ils polluent plus, mais peut-être aussi qu'en Chine ils polluent plus parce que c'est nous qui achetons plein de trucs en Chine aussi et parce qu'on a mis toutes nos usines là-bas. Donc en effet, c'est toujours plus facile de rejeter sur les autres. Je pense qu'il faut aussi se regarder en face et voilà. Et nos gestes climat, typiquement, enfin, il y a quand même des outils qui sont nos gestes climat, c'est fait par l'ADEME. C'est fait sur des rapports qui sont très précis, et tout comme le climat, je veux dire, pour moi on peut plus être climato-sceptique, enfin ceux qui le sont encore c'est plus possible, enfin je veux dire, c'est quand même tout ce qui est sorti, c'est des rapports qui sont sortis depuis 1992, qui sont sortis par le GIEC, voilà, qui sont des scientifiques en plus qui n'ont pas d'intérêt financier derrière, qui font ça convenablement, et donc voilà, c'est de se dire que ces rapports-là, ils sont sourcés, tout est sourcé. Donc, c'est clair que le problème actuellement, et t'as raison de le dire, c'est t'as tellement d'infos, et notamment sur les réseaux sociaux, on va pas se mentir, du coup, qui t'écoute, quoi. Et donc, c'est là où il y a de la désinformation, et il faut vraiment, c'est là où c'est plus compliqué, c'est aller chercher les bonnes sources et se dire, bah, en effet, ça, c'est bien sourcé. Donc, et je pense que ça peut être aussi le problème des jeunes maintenant, hein, c'est que, en effet, ils ont une information sur TikTok, ils la prennent pour, ils vont dire, bah oui, c'est ça, c'est sûr, c'est ok. Comme quand tu vois un article de journal, tu vois le premier truc, tu dis, bah oui, c'est ça, tu lis même pas le fond de l'article et tu dis que c'est une bonne information. Donc, c'est clair que t'as de la désinformation, et pour moi, il faut vraiment, aussi dire aux gens d'aller chercher la bonne source, quoi, et quand on l'a vraiment, t'as des bons chiffres. Et pour le coup, en tout cas, sur cette question de dérèglement et tout ce qui est en train de se passer, c'est bien sourcé. Et puis au-delà de ça, malheureusement, les gens le constatent, c'est-à-dire que cette année aussi il y a une belle évolution, parce que mais c'est triste d'en arriver là, mais parce qu'en fait cet été on a eu des putains d'incendies, parce qu'il y a des endroits où on pouvait plus forcément boire de l'eau. Et en fait, arrêtons d'attendre ces moments où ça nous arrive dessus pour vraiment agir. Maintenant, on le sait, donc let's go, quoi. Enfin, je veux dire, là, on est en train de se parler, c'est pareil, il fait je sais pas combien de degrés dehors. Je veux dire, et alors qu'il y a deux semaines, il faisait moins 5. Enfin, je veux dire, moi, j'ai chopé la crève à la fin de mon tour parce que je suis passé de température, enfin, à la fin, en tout cas, mais enfin, c'est délirant, quoi. Tu passes de moins 5 à plus 10. Enfin, donc, ouais, n'attendons pas. C'est Jean Covici aussi que j'invite à suivre, si c'est ça, mais qui dit souvent, vaut mieux anticiper la sobriété anticipée que la sobriété subie, parce que dans tous les cas ça arrivera, donc essayons de l'anticiper et agissons, quoi.
Et ton tour, tu parlais, tu avais vu des agriculteurs, tu as rencontré des agriculteurs, j'ai vu aussi sur ton page Instagram, tu avais fait une photo d'une bassine. Ce sujet aussi, parce que finalement, on en a parlé beaucoup de ces bassines d'eau, de ces grands réservoirs d'eau, etc. On sait qu'il y a des débats qui sont infinis dans les régions, entre les élus, les agriculteurs, qui se mettent en groupe, qui ont des subventions, est-ce qu'il faut subventionner ou pas, les politiques se sont mis dans le truc, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant ton tour, en montrant les paysages, en montrant les différents parcours, etc. Tu montres aussi en fait cette diversité de tout ce qu'il y a, parce que entre une bassine, il y a des régions, les agriculteurs vont dire, ben nous on en a besoin de cette eau, quoi, de ce truc-là. D'autres personnes vont dire, oui, mais c'est un scandale. Et puis au milieu, donc il y a les politiques, il y a les médias qui s'y mettent, etc. Donc je vais pas te demander ton avis sur les bassines. Je dis juste qu'en fait, t'as un post, je mettrai un lien pour que les gens aillent voir un peu, pour ceux qui savent pas à quoi ça ressemble. Mais je pense que tout le monde sait maintenant trop à quoi ça ressemble, mais qui montre aussi que selon les régions, parce qu'il y a aussi une photo avec des éoliennes, j'ai vu les débats sur les éoliennes, t'es passé à Narbonne, hein, dans ton tour,
ouais,
au Lage de Narbonne, ils veulent faire des éoliennes en pleine mer, et on dit ouais, mais ça va provoquer, ça va dénaturer toute la mer, etc., qu'est-ce qui va se passer, il y a celle aussi qu'on veut mettre dans le nord et tout. Enfin, c'est infini. En fait, ces discussions sont vraiment infinies. Et en faisant un tour comme ça, comme t'as fait, en faisant autant de kilomètres, t'as dû voir, je ne sais pas combien de cas où finalement ces questions-là, elles interviennent dans le quotidien, mais vraiment présent de toutes les personnes, quoi.
Ouais, c'est la chance que j'ai, et c'est vraiment aussi le but, hein, c'est d'aller sur le terrain, justement d'aller rencontrer ces personnes en fait, pour voir comment ça se passe vraiment là-bas, quoi. Et la chance en effet que j'ai, et en effet vous pouvez aller voir sur le compte Green Ecotour, parce que je tiens à saluer aussi le super travail de Jérôme Abasque, parce que en fait faut se dire aussi qu'il y a un vidéaste qui a suivi en vélo aussi, justement pour limiter l'empreinte carbone. Alors voilà, il a fait un effort de dingue aussi, hein, il faisait 42 km tous les jours, il s'arrêtait, il m'attendait, il prenait les photos, les vidéos. Alors voilà, il a fait un formidable travail, et il a fait des photos de dingue en drone, et le but aussi, c'était de faire vivre l'éco-aventure justement avec ce qu'on croisait, avec les paysages, et essayer de raconter à chaque fois, mais raconter sans porter de jugement. Ça, c'était aussi hyper important. C'était de, on vous donne les données, vous en faites ce que vous voulez, et après, on en fera certainement une exposition photo, et puis on va en faire un film aussi de cette éco-aventure. Mais c'était vraiment de mettre en avant ça, parce qu'en effet, les paysages en France, il y en a des multiples, et c'est hyper intéressant. Et en effet, aller sur le terrain et échanger avec les gens sur ça, c'est hyper prenant, ça te permet aussi d'avoir des avis plus concrets, et c'est clair que encore une fois il y a beaucoup de polémiques qui sont lancées, et puis c'est surtout mais ça je pense que c'est un peu malheureusement l'histoire de l'humain, parce que j'espère qu'on arrivera quand même à changer ça, mais c'est vrai que dès que tu peux trouver une solution en plus qui est bon pour l'environnement, le problème c'est qu'on peut avoir tendance aussi à la déformer, tu vois, les méthaniseurs par exemple, ça c'est un exemple concret agricole, il y en a beaucoup dans la région de France. À la base l'idée elle est top, de récupérer des déchets verts etc. et d'en faire de la méthanisation, sauf que le problème c'est que maintenant on se retrouve à faire comme aux États-Unis, à faire des cultures de maïs en fait qu'on vient jeter dans ces méthaniseurs, donc en fait on vient faire de la bouffe qu'on va jeter juste pour faire marcher des méthaniseurs, donc en fait encore une fois l'idée est bonne à la base, et l'humain en fait juste pour faire de la rentabilité et de l'argent, et ben il va chercher jusqu'au bout pour chercher ça. Et c'est vrai que les méga bassines, on est vraiment arrivé, c'était en Charente là, on est arrivé juste au moment en plus où il y a eu ces activistes qui sont allés sur le terrain, et voilà, moi j'ai eu l'occasion aussi de discuter avec eux, et c'est vrai que c'est toujours des problèmes de riches, et notamment pour le climat, ça c'est un chiffre important parce qu'on parle souvent d'inégalité sociale aussi par rapport à ça. Moi je parle d'environnement, mais il y a aussi tout ce côté social qui est hyper important, et on sait qu'il y a 10% des plus riches qui polluent pour 50% des plus pauvres, et ce chiffre-là est hyper important, parce que nous en tant qu'Européens c'est pareil, en fait tout ce qu'on fait, bah, ça a un impact directement, encore plus directement sur les pays du Sud qui galèrent encore plus, donc ouais, mais c'est ça qui est hyper, en tout cas quand tu fais un tour comme ça, c'est d'aller sur ces terrains, de voir aussi, tu vois, on a été aussi beaucoup dans les vignobles, moi j'ai halluciné, ça je me rendais pas compte, quand je suis passé en Charente notamment du côté de Cognac, bah, je discutais avec des maires etc, et en fait qui me disent non mais c'est la folie, les maladies etc, enfin encore une fois parce que c'est caché, parce que bah t'as LVMH derrière ça, t'as les grosses marques qui te vendent du cognac à 98% à l'étranger. Et du coup, on accepte de déglinguer les sols, de déglinguer la santé des gens autour de. Enfin voilà, parce qu'il y a un intérêt économique. Mais alors voilà, on est quand même arrivé dans un système qui est complètement dingue. Et en effet, c'est pour ça que je parle souvent de nouveaux récits. C'est-à-dire que pour moi, il faut vraiment créer ces nouveaux récits où on peut faire autrement et ensemble. Mais c'est ça qui est hyper intéressant. Mais c'est vrai que tu as différents avis. Les éoliennes aussi dont tu parlais, typiquement ouais, du côté de Leucat. Voilà, moi j'ai rencontré une association qui. C'est cool parce que là, tu vois, pour le coup, ils essayent de mettre des choses en commun. Il y avait EDF qui devait mettre 50 éoliennes dans la mer. Et puis, alors l'association n'était pas totalement d'accord, mais ils disent, bon, bah ok, ce qu'on va faire, par contre, c'est qu'on va faire des tests. Donc en fait, ils vont mettre 3. Mmh. Et en fait, pendant je ne sais plus combien de temps, ils vont observer ce qui va se passer en fait au niveau de la faune marine. Puisque voilà, en effet... Il y a pas non plus de solution miracle. Je veux dire, il faut un mix énergétique, et ça, je pense que pour le coup, le gouvernement l'a assez compris. Le nucléaire, tout ce qu'on peut dire dessus, c'est que ça fonctionne quand même très bien parce que c'est bas carbone. Mais au-delà de ça, il faut aussi d'autres choses, et donc il faut un mix énergétique avec du solaire, avec des éoliennes, etc. Et donc, mais en effet, il faut mesurer qu'est-ce que ça a comme incidence, et je trouve que c'est bien qu'il y ait des mutualisations qui soient faites aussi. Là, typiquement, avec cette association Les Peuples de la Mer, bah, ils pourront aussi dire sur le terrain comment ça se passe concrètement, et après, bah, est-ce qu'on y va ou pas, quoi. Ouais. Mais c'est ça qui est hyper intéressant entre les différents acteurs du territoire, et de se dire qu'on peut avancer ensemble, même si c'est pas toujours simple, et que t'as toujours des gros problèmes d'ego et ego dans la politique et financier pour les entreprises, donc ouais, mais c'est intéressant d'essayer de faire bouger tout ce monde.
Ouais, et puis je vois que t'as une belle photo aussi avec un grand champ de panneaux solaires. C'est une réflexion que je m'étais fait un jour quand je passais sur la route entre le sud et Clermont, là, quand je rentre de vacances, il y a un grand champ de panneaux solaires énorme, mais vraiment énormissime, qui ressemble un peu à celui de ta photo là, qui était en Alsace plutôt, je pense celui-là. Et en fait, en faisant la réflexion, en me disant, mais l'agriculteur qui a mis des panneaux solaires dans son champ, quand même, il s'est enlevé tout un tas de problèmes de gestion de ses champs, d'animaux, tu vois, parce qu'avant, il y avait des animaux à cet endroit-là, puis après, il y a eu des cultures et tout, pour mettre des panneaux solaires qui doivent lui générer, j'imagine, des bons revenus, tu vois, en plus, là où ils sont placés. Mais en même temps, je me dis, le gars d'à côté, pour manger, tu vois, on parlait tout à l'heure d'autosuffisance alimentaire qui est très loin d'être atteinte, etc. En fait, on a encore enlevé une zone cultivable pour mettre finalement du panneau solaire. Et je me disais, sur le terrain, personne ne peut être forcément totalement content, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va dire mais moi j'aurais préféré que tu mettes un champ maraîcher bio, ou pour qu'on mange nous en local avec une nappe ou je sais pas quoi, tu vois. C'est insoluble, et c'est pour ça qu'on disait qu'on est un peu dans le, il faut quand même faire des choses, mais on est quand même dans cette espèce de blocage quoi, potentiel, si on prenait tous les avis en compte.
Ouais, bah, c'est clair que ces champs de panneaux solaires, l'année dernière, je n'avais quasiment pas vu, mais là, peut-être aussi parce que Jérôme filmait tout ça, et du coup, j'étais un peu plus prévenu, mais je vois que j'ai halluciné de ceux sur lesquels je suis tombé. Bah, pour moi, c'est toujours le, en fait, avant aussi, il y avait pas mal de petites fermes agricoles, et ça fonctionnait très bien comme ça, parce qu'on avait plus d'autosuffisance alimentaire, et c'est vrai que là, bah, en effet, c'est maintenant des gros secteurs agricoles qui, en effet, n'hésitent pas, en effet, à soit faire des grosses exploitations, soit, en effet, à mettre des gros panneaux solaires. Et d'ailleurs, il y a des choses qui ont été faites à ce niveau-là, parce que c'était de se dire, bah, ok, on met des panneaux solaires, mais est-ce qu'on peut pas faire des cultures aussi en dessous? Et puis, pourquoi on mettrait pas, en fait, des panneaux solaires au lieu de les mettre sur des champs entiers comme ça, plutôt à des endroits qui sont vraiment pas exploités? Donc, il y a toujours des pour et des contre, et je pense qu'il faut juste aller creuser pour savoir si c'est vraiment fait avec un intérêt environnemental, ou si c'est juste en effet pour gagner de l'argent. Mais je pense qu'il faut toujours se renseigner et jamais juger trop vite. Mais c'est clair que du coup, on peut faire autrement que mettre, en tout cas sur une surface cultivable, des tonnes de panneaux solaires. Mais voilà, après, faut vraiment se renseigner sur le sujet. Mais encore une fois, des solutions, il y en a. Il y a plein, en effet. Il commence de plus en plus aussi, tu vois, on parlait de maraîchage bio, etc. Puis en fait, on se rend compte aussi que les agriculteurs se rendent compte aussi que mais c'est, encore une fois, c'est le système de pensée qui est en train de changer. Mais tu vois, ils se rendent compte qu'au final, en mettant des haies, bah, ça ramène de la biodiversité, et que du coup, ça fonctionne mieux. Qu'en mettant de la permaculture, en fait, on a plus de rentabilité. Mais c'est, voilà, ça évolue, et on a besoin que des gens montrent l'exemple sur ça. Mais ouais, il y a du taf. Il y a beaucoup de boulot, et je te dis pas dans les vignes aussi. Les vignes, moi, j'en ai vu beaucoup cette année. On a notamment rencontré aussi des gens qui le font de façon responsable. Mais à côté de ça, ouais, c'est aussi un vrai délire, hein, les vignes, et même socialement, hein, tu vois. Il y a même plus beaucoup de Français qui vont dans les vignes pour aller chercher le vin, en tout cas, cueillir le raisin. Au final, ils font venir beaucoup d'étrangers. Moi, j'ai halluciné du nombre de bus que je voyais arriver pour récolter les raisins. Donc, encore une fois, pour moi, tout est lié. C'est pour ça que j'aime bien aussi parler de sport, planète, santé. Que juste pour faire un parallèle par rapport à ce que tu disais juste avant aussi, c'est, en tout cas, si on parle aussi du sport business et des événements qui sont en train de se faire, il faut aussi mesurer du nombre de joueurs qui étaient blessés quand ils sont arrivés, notamment à la Coupe du Monde au Qatar, enfin, en tout cas, juste après, tu vois, parce qu'ils sont aussi sur un rythme qui est complètement dingue. Et donc, en fait, au-delà de même de parler d'environnement, en fait, c'est que même au niveau sanitaire, ils se déglinguent aussi, parce qu'en gros, l'organisme, bah, ils font des matchs tous les trois matchs. Enfin, je veux dire, en fait, c'est plus... En fait, et je pense qu'en règle générale, dans notre société, de toute façon, le gros problème, c'est aussi cette notion de temps, tu vois. Et toi aussi, tu l'as vécu, si t'as été, t'as eu des problèmes au boulot, ou on t'a peut-être toujours dit de travailler plus, enfin bref, t'es dans un engrenage, etc. Et c'est cette notion de temps, en fait. D'ailleurs, moi, je déteste maintenant dire que je n'ai pas le temps. Vraiment, le mot souvent que je dis maintenant, c'est que je ne prends pas le temps. Parce qu'on est dans cette société qui veut qu'on prenne, enfin, qu'on n'ait plus le temps, parce qu'on a tous nos loisirs, on a nos téléphones, etc. Et donc on n'arrive plus à prendre le temps, et je pense que ça aussi, c'est, pour moi, c'est vraiment une grande notion pour tous ces sujets là c'est prenons le temps d'analyser, prenons le temps de faire les choses, prenons le temps d'aller rencontrer les autres, parce qu'on le fait plus, en fait. Et pour moi, si on fait plus attention aux autres, on fait plus attention à la nature aussi, tu vois. Le nombre de gamins qui vont plus se balader dehors juste pour se rendre compte de ce qui se passe, je veux dire, t'as quand même des gamins, moi je suis du côté de Vieux-Condé, qui savent pas, qui vont au supermarché, qui savent pas, en fait, où pousser les légumes, quels sont les arbres, enfin, tu vois. Et donc, on est quand même dans cette société aussi qui est complètement déconnectée. Donc, arrivons à reconnecter les gens, et je pense qu'il y a vraiment des démarches qui sont en train de se faire. Alors, c'est long, mais en tout cas, c'est en train de se faire.
Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est compliqué, hein, mais où on dit que c'est structurant, c'est ce qui va structurer beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup d'activités qui vont structurer là-dessus. Et tu as fait aussi beaucoup de photos avec ton vidéaste, là. Vous avez fait beaucoup de photos des routes aussi. Et c'était une question que je m'étais posée, parce que je me dis, mais tu as couru où pour faire un tel parcours? Parce que tu as couru sur les routes, avec les voitures, au milieu des bagnoles, qui sont totalement l'inverse de ce que tu recherches. Rappelons quand même que la majorité des voitures qui roulent en France roulent sur des courtes distances qu'on pourrait faire à pied ou en vélo. Et toi, tu fais 42 bandes en courant, justement là où la voiture et où les transports sont plus pratiques. Mais tu as couru sur quoi? Sur des routes, sur les chemins, sur tu as trouvé des pistes cyclables, des belles voies vertes. Comment tu as fait?
Il y a eu vraiment plein de diversité, et tu as raison, en fait, de parler aussi de cette distance en voiture. Je crois que c'est T'as 50% des trajets qui font moins de 3 km. Ça, c'est un vrai sujet aussi, même en termes de sédentarité, hein. En fait, j'ai fait un peu tout, vu que donc déjà j'ai tracé un cœur aussi sur la carte de France, et c'était symbolique aussi. Les 80 premières étapes, elles représentaient un cœur, et c'était hyper important aussi, justement. Je te parlais d'amour, etc., pour nous de relier les gens, etc. Et donc du coup, quand tu fais ton propre parcours comme ça, notamment un cœur, des fois il y a des chemins où tu es obligé de passer si tu veux respecter la forme de ton symbole. En fait, on est passé vraiment par tout type de route, mais c'est surtout qu'il fallait en plus que le vélo passe dessus. C'est-à-dire que c'était important pour moi de partager l'écoaventure avec la personne qui se relayait sur le vélo. Ça m'arrivait quelques fois de passer dans des chemins, parce que moi j'ai tracé mon itinéraire avec Komoot, qui est une super appli en tout cas pour tracer tous ces chemins. Et donc c'est que des fois t'as quand même des surprises, et donc le vélo ne passe pas. Mais globalement, il y a eu tout. Il y a eu de la voie verte, il y a eu des routes. Je crois qu'on a pris même un peu de national où c'était vraiment très dangereux. Mais globalement, bon, on a quand même été sur des petites routes, mais ça qui était hyper intéressant. Même quand les gens me disaient non, mais t'es fou d'aller sur cette route-là, mais je dis en fait, ça me dérange pas, dans le sens où, alors c'est clair que t'es avec des bagnoles et c'est pas plaisant, mais les gens te voient aussi. Les gens te voient, et en fait, moi ça m'allait très bien, en fait, que les gens voient ce qu'on fait. C'est pour ça dire qu'on avait un vélo qui était très visible cette année, qui était un vélo couché, un vélo assis, où il y avait la visibilité dessus, où on mettait un message tous les jours par rapport au climat. Donc c'est vrai qu'on a fait des routes plus ou moins cool, des routes plus ou moins dangereuses, mais quand même des routes hyper dingues en termes de paysage. Et puis te rendre compte aussi que t'as des régions où t'as des voies cyclables qui sont hyper bien adaptées, parce que ça aussi c'est un vrai sujet, hein, l'urbanisation et comment tu te déplaces. Donc on a fait des voies cyclables incroyables, et puis des endroits où c'est compliqué de trouver une voie cyclable et où t'es bien, quoi. Mais voilà, ça montre encore une fois la richesse de ce qui est fait. Et puis voilà, enfin, la beauté des paysages. Et sur ça, tu vois, je pense que je remercierai jamais assez Jérôme, parce que quand t'es dans le truc, tu vois ce qui se passe autour de toi, et c'est plaisant. Mais voir après ces images et tout le film qu'on va faire, tu vois, rien que pour ça, j'ai hâte. Mais tu revis aussi le truc, et puis tu vois des choses que t'as pas forcément vues en courant aussi. Mais c'est ça qui est plaisant aussi dans ce type de voyage, justement. Mine de rien, même si tu prends pas le temps. Enfin, je dis souvent, en fait, que c'est un peu anecdotique ce que je fais, parce que je dis souvent aux gens qu'il faut prendre le temps. Et puis moi, au final, tous les jours, j'enchaîne un marathon. Tous les jours, je change d'endroit, alors qu'il y a des gens que j'aurais aimé découvrir beaucoup plus longtemps. Donc, au final, je prends pas de temps que sans le temps. Mais quand tu cours, dans tous les cas, tu prends le temps. C'est-à-dire que moi, je cours entre 9 et 11 km heure. Mais donc, du coup, et puis moi, j'aime beaucoup parler en courant, etc. Donc, j'aime beaucoup partager. Et donc tu prends le temps quand même de voir ces paysages et autour, quoi. Donc ouais, c'est une chance. Mais c'est vrai que j'ai en tout cas sur les chemins, j'ai plus pris de bitume que de chemin, quoi. Mais en tout cas, du bitume qui était aussi des fois dans des endroits hyper isolés, et où c'était hyper plaisant de voir tous ces paysages.
Ouais, mais tu vois, ça, il y a des trucs qui évoluent. L'autre jour, vers chez moi, ils sont en train de faire une piste, une grande route qui ira jusque dans le sud. Alors, mais vraiment, 300 bornes et tout. Et un jour, j'ai dit à ma femme, l'autre jour, je lui dis, ouais, tu vois, cette route-là, ça se trouve, dans quelques années, on pourra aller en vacances en vélo. Elle m'a dit, ouais, ça fait loin quand même. Je dis, ouais, mais, enfin, bah, une autre fille, bon, elle a 5 ans, tu vois, l'amener en vélo sur 350 bornes, ça va être un peu compliqué pour l'instant. Mais le temps qu'ils construisent la route, je me dis, quand on sera retraité, ça se trouve, on pourra prendre les vélos, partir pendant quelques jours. Et la route, elle passe, ils sont en train de la tracer petit à petit, kilomètre par kilomètre et tout. Et je disais, ça aussi, c'est un changement qui est sympa, parce que il y a, pour moi, au quotidien, je vais pouvoir prendre la route, tu vois, pour aller dans des endroits où avant il y avait beaucoup de bagnoles et c'était dangereux. Et en même temps, je me dis, quand on voit les voies qu'il y a sur le, alors il y a le Rhône, il y a celles le long de l'Atlantique, etc., qui descendent très très bas, hein, qui vont traverser toute la France. Je me dis, ça ouvre aussi une perspective aux gens. Tu disais, je prends plus l'avion, on peut découvrir des choses localement et tout, mais faire voyager en vélo, prendre des vacances en vélo, découvrir ces voies sur des trucs qui sont plus sympas que de dire, si je veux faire du vélo, je suis obligé de prendre des grandes routes. C'est aussi comme ça qu'on incite les gens, finalement, à changer aussi de mode de consommation touristique, j'ai envie de dire.
Ah non, mais complètement. Et puis en plus, au-delà de ça, il y a aussi un intérêt. En plus, si on parle de l'intérêt économique aussi pour ces villes, etc., c'est qu'en plus, il y en a, parce que les gens, ils voyagent. Alors, ils voyagent en vélo, mais c'est pareil, ils vont consommer aussi local, ils vont aussi dormir dans des endroits localement. Et en effet, il y a vraiment tout un développement qui se fait. Les régions l'ont compris en plus, et donc ça, c'est bien. Alors, ça dépend où, mais tu as quand même des régions qui l'ont compris. En effet, tu as des Eurovélos, maintenant, tu as tellement de pistes, enfin, tu as quand même beaucoup de pistes cyclables qui évoluent, et aussi des groupes de cyclistes qui poussent aussi dans ce sens-là. Donc, c'est clair que, d'ailleurs, j'en discutais avec. avec beaucoup de gens que j'ai croisés et qui disaient que sur des chemins où je suis passé, où c'était des routes vélo, quoi, où ils disaient que cette année, ça avait marché du feu de Dieu, quoi. Les gens, pour le coup, ça a été l'avantage du Covid. C'est que les gens, ils ont redécouvert aussi ce qu'il y avait autour de chez eux. Et du coup, je pense qu'il y a aussi plus de gens qui commencent aussi, en effet, à faire des trips en vélo, se rendre compte que c'est pas si compliqué que ça, qu'en plus, tu as des gîtes un peu partout, que tu peux prendre ta tente. Et donc, ouais, il y a de plus en plus d'aménagements qui sont comme ça. Et puis, encore une fois, tu découvres les paysages autrement, quoi. Je veux dire, t'es pas en voiture ou en train, tu prends le temps aussi, et prends le temps tout en avançant, parce qu'en vélo, en plus, tu peux quand même bien avancer. Et donc, c'est hyper plaisant aussi de voir ces aménagements qui sont en train de se faire, et prendre un peu le modèle aussi de ce qui se fait aux Pays-Bas, etc., où ils avaient compris aussi depuis pas mal de temps ça. Mais ouais, c'est en train de changer. Et c'est vrai que même en vélo, tu peux faire des tours d'Europe entier sur toutes les pistes cyclables. Enfin, non, ça, c'est hyper cool. Et pour le coup, en plus, quand tu vas sur certaines, elles sont vraiment hyper bien aménagées. Moi, je me souviens du Grand Est, etc. L'année dernière, j'avais fait la vélo maritime, là, qui part du côté de Dunkerque. Et puis justement, bah, en faisant différentes voies, tu peux descendre en effet jusque dans le sud-ouest. Donc non, c'est plaisant. En tout cas, tu peux le faire, et c'est de plus en plus facile, parce que même en termes de ressources, tu as de plus en plus de guides. D'ailleurs, il y a les Others, alors je prononce peut-être mal, mais qui a sorti une super carte aussi, justement, avec tous ces itinéraires, même de rando, etc. Et donc, non, tu peux vraiment voyager différemment. Ouais.
On va quand même parler un peu de course, parce que tu as dit que tu cours entre 9 et 11 km heure. Donc tu faisais quoi? Tu courais combien d'heures par jour?
En gros, c'est vrai qu'on n'a pas parlé beaucoup de cette partie sportive, mais en gros, moi, je cours à peu près 4 à 5 heures. En gros, le marathon le plus rapide que j'ai fait là sur ce tour, c'est parce que tu t'apprends aussi à courir plus lentement, hein, que d'habitude, mais je l'ai fait en 4 heures. En 4 heures, quoi, et le plus long, on l'a fait en 5 h 30, parce que ça dépend de ton dénivelé, etc. Et donc, ouais, l'objectif, c'était à chaque fois de courir le matin en partant assez tôt. En partant entre 8 h et 9 h, et puis arriver vers 14 h maximum, parce qu'en fait, après, bah, justement, je mangeais souvent dans les écoles, et puis je faisais des sensibilisations de 15 h à 17 h ou de 14 h 30 à 17 h. Donc, ouais, on courait vraiment tous les matins. Et puis, voilà, entre 4 et 5 h, et puis l'après-midi, les sensibilisations. Et en effet, c'était important d'avoir un rythme assez, enfin, en tout cas assez cadré, en tout cas, ne. Enfin, prendre le temps tout en perdant pas trop de temps non plus, et puis après faire les sensibilisations. Donc voilà, la journée type, c'était vraiment ça, c'était partir entre 8 h et 9 h, arriver vers 14 h, faire la sensibilisation, et puis après dormir chez l'habitant, ou alors dormir dans. Voilà, c'est toute la logistique qu'il y a derrière aussi, hein. Encore une fois, je te parlais d'équipe tout à l'heure. Moi, tout seul, faire tout ce que j'ai fait, je n'aurais pas forcément pu le faire. C'est aussi grâce à l'association, parce qu'on avait des bénévoles qui contactaient toutes les écoles dans lesquelles j'intervenais, qui contactaient, bah, les villes, les associations pour me trouver un logement. Parce que ça m'est arrivé 2 fois, je pense, de devoir toquer aux portes. Mais sinon, la plupart du temps, c'était anticipé. Parce que si tu cours le matin, que l'après-midi, tu fais les sensibilisations, et qu'après, tu dois toquer aux portes, autant te dire que déjà, j'avais pas de récup. Mais alors là, c'était vraiment compliqué. Donc, ouais, c'est tout ce travail d'équipe aussi. C'est vraiment de se rendre compte que en équipe, tu peux faire un truc de dingue, quoi. Enfin, c'est vrai que moi, je me rends pas compte, parce que je suis peut-être encore dedans, mais enfin, se dire que tu fais 110 villes différentes, etc. Enfin, c'est logistiquement, c'est hyper hyper gros, surtout quand tu prévois des choses quasiment tous les jours, quoi. Donc ouais, je remercie encore toutes les personnes de l'asso qui m'ont aidé au quotidien, et puis toutes les personnes aussi, tu vois, les militants. Moi, j'ai un gros partenariat, enfin, j'ai un gros partenariat avec la Maïf, et tu as des militants partout en France qui m'ont permis de créer ces connexions. Et donc voilà, c'est tout ça, c'est toutes ces connexions qui sont hyper importantes, quoi, tous ces liens.
Oui, mais tu vois, tu as répondu à ma question, donc je te la pose, parce que sur la logistique, c'est vrai que dire tous les jours, attends, tu cours le matin, l'après-midi, tu es devant les écoles, ça paraît pas, mais c'est quand même fatigant, je veux dire, de courir. Tout le monde le sait, tout le monde sans doute, mais intervenir devant les écoles, discuter, passer du temps debout, j'imagine aussi beaucoup, d'échanger et tout. Si il faut, enfin, tu avais pas beaucoup de temps de repos, parce qu'après, avec ça, il faut se reposer, s'alimenter, discuter, j'imagine, avec les bénévoles, avec d'autres personnes, rencontrer peut-être des élus, des entreprises, des personnalités dont on a discuté et tout. C'est à un moment donné, enfin, t'as pas eu de fatigue, je veux dire, dans ce rythme-là. Tu t'es dit, ouais, ça va. T'as pas, à un moment donné, tu t'es dit, le rythme, il est quand même difficile, il va falloir adapter des choses.
Bah, en fait, c'est vrai que, comment dire, souvent, en fait, moi, l'exploit sportif, je le vois plus dans la performance, pas forcément. Enfin, il y a la performance physique, mais c'est en effet dans la performance après de faire des choses à côté. C'est ça aussi qui pour moi était hyper important et qui est en effet qui est énergivore. Et d'ailleurs, Jérôme, il en parlerait beaucoup parce que le vidéaste, en fait, lui s'est rendu compte en effet à quel point ça. Moi, je me nourris des gens. J'ai la chance que j'ai, je me nourris de ce que les gens m'apportent. Et Jérôme, lui, ça avait tendance à le vider. Et c'est vrai, des fois, t'as besoin de ta bulle aussi, d'être tout seul. Et c'est pas facile en fonction de commenter. Et donc, c'est vrai que. C'est dingue hein, ce que je veux dire, mais enfin physiquement tu vois c'est les 20 à 25 premiers marathons où ton corps il se met dedans et où du coup bah tu t'avances au fur et à mesure et après ça devient vraiment une routine. C'est pour moi c'était vraiment une routine, tu vois, pas d'échauffement, enfin les gens à chaque fois me demandent s'il y avait une routine particulière. Non, en fait c'est juste que j'y allais et puis let's go, et puis mais je savais que j'avais ces avoir des objectifs tous les jours, tu vois, d'aller voir des écoles, déjà ça me poussait. Et après ouais c'est je pense que c'est plus tu vois quand j'ai arrêté ces marathons j'aurais pu continuer hein. Physiquement là je me sens hyper bien etc, mais c'est plus psychologiquement en effet où ça te demande beaucoup de bah déjà d'être sur les réseaux pour partager ce que tu fais, puis en effet d'être en connexion tout le temps avec les gens. J'adore ça hein. Mais c'est vrai que ça peut fatiguer, et à la fin je pense que c'est ce qui me fatiguait le plus, mais tout en comment dire, tout en étant toujours quand même plein d'énergie, parce que les gens t'apportent tellement, les enfants, enfin je veux dire quand t'as des gamins, puis limite moi ça me gênait tu vois, mais quand t'as des gamins qui tous les jours te disent Nico, enfin tu vois c'est cool, c'est ça qui te motive tu vois, mais moi je le fais pas pour moi en fait, ce que j'ai fait c'est vraiment pour sensibiliser, mais donc c'est vrai que ça te pousse tu vois, enfin moi il y a des vidéos qu'a fait Jérôme qui sont notamment sur les réseaux qui me font chialer parce que, et qui me font souvent chialer d'ailleurs à la fin de ce que je fais parce que tu te rends compte de ce qui a été fait mais voilà, mais c'est vrai que la force de cette éco-aventure, c'est les gens qui te poussent au quotidien. Et c'est clair que faire 110 marathons, si tous les jours, tu vois, j'avais pas ces gens à aller voir, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué parce que c'est vraiment ça qui me porte. Donc c'est vrai que j'ai eu deux, trois étapes où le temps m'a paru un peu plus long. Mais au-delà de ça, j'ai pas vraiment eu de rechute parce que je savais que j'avais un objectif, parce que aussi en termes de performance, on parle souvent de visualisation. Et moi, je visualisais beaucoup aussi les dernières étapes, tu vois, de me dire aussi que j'allais retrouver mes proches et tout. Et ça, c'est hyper important parce que quand t'es sur un effort long comme ça qui dure hyper longtemps, tu peux pas te dire allez c'est bon je fais un marathon, enfin je veux dire tu calcules pas comme ça parce que sinon tu, je pense que t'arrêtes vite, mais ouais c'est vraiment encore une fois cette force collective je pense qui m'a porté, et me dire que j'avais de la chance, et puis aussi que je pense que le positif attire le positif, c'est-à-dire que tu fais des rencontres ou des rencontres juste incroyables, et puis des connexions qui se font sans que tu l'aies demandé en fait, des gens qui connaissent des gens, et puis en fait voilà, et tu vois j'ai aussi rencontré par hasard une Mallory là qui est venue avec sa maman là qui a 20 ans, qui a une maladie orpheline, et c'est pareil en fait, tu reprends aussi une claque quand tu tombes aussi sur des personnes qui sont atteintes de maladies comme ça, parce que encore une fois on parle de sport, pour moi tout est lié, encore une fois sport, santé, planète, dans tout ce qu'on mange etc, bah malheureusement ce type de maladies vont arriver de plus en plus aussi parce que tout ça est lié, mais bref, on rencontrait cette jeune de 20 ans tu vois qui fait des choses en joëlette avec ses parents etc, bah ça te remet une claque, et ça te redit aussi bah en fait ouais toi t'as deux jambes etc, donc bah vas-y en fait hein, je veux dire tout comme l'année dernière j'avais croisé des migrants et tu racontes ce que tu fais, puis eux ils disent bah ouais bah moi je suis venu de mon pays en nageant etc, et en fait la limite tu te sens con parce que tu te dis bah en fait ouais c'est ça aussi qui est incroyable quoi, donc ouais c'est toute cette force là te dire qu'en fait au final ouais il faut que tu le fasses, et puis c'est surtout que c'est tous ces gens qui sont hyper inspirants que tu rencontres quoi.
Il y a quand même des gens qui vont se demander, dire mais en fait c'est quoi ton métier réel, parce que partir 110 jours comme ça c'est envie de ça, c'est quoi le mode de fonctionnement pour que tu arrives à continuer à le faire d'année en année, parce que j'imagine tu as d'autres projets pour porter ton message d'année en année, de le faire comme ça tout au long de ta vie, c'est peut-être pas ton projet, mais disons que ce soit ton projet, c'est quoi ton mode de vie, ton mode pour arriver à créer de tels projets en fait?
Ouais, bien sûr. Cette question-là, elle s'entend. Il y a pas mal de gens qui posent des questions. C'est sur ça. Moi, j'ai la chance maintenant d'être salarié de l'association. Donc ça, c'est une vraie chance. Depuis le mois de mars, tu vois. Et puis en fait, quand j'ai lancé le premier projet, j'avais fait une rupture conventionnelle avec ma boîte, donc j'étais encore au chômage. Et donc ça m'a permis de construire ce projet. Et après, ouais, en fait, si tu veux, on a avec l'association, donc au départ je l'ai créé, donc là je suis sorti du bureau pour devenir salarié, puis encore une fois j'ai la chance d'avoir des super personnes dans l'association, dans le bureau, etc. C'est de se dire qu'en effet, moi j'ai quitté un boulot dans lequel je gagnais très bien ma vie, j'avais mes primes, etc. Ça n'avait pas de sens, et puis Et puis c'est de se dire que du coup, alors je gagne, tu vois, je gagne mieux. Moi je m'en fous. Je crois que tu vois là, je dois être avec ce que je fais, je dois être à 1 700 par mois, un truc comme ça, ce qui me va très bien. Comment dire, c'est de se dire aussi que quand tu te poses des questions sur comment tu vis, déjà tu dépenses moins aussi quand t'es plus sobre aussi. Et puis au-delà de ça, c'est là, on est vraiment en pleine structuration, c'est-à-dire que l'association, elle a qu'un an et demi, elle grandit beaucoup. C'est-à-dire que nous, nos actions au quotidien, au-delà de ce que fait Nicolas Van Den Elsken, l'éco-aventurier, c'est tout ce que nous, on fait au quotidien avec l'association. Et donc, on a vraiment trois piliers là, avec l'association, qui sont l'éducation, qui sont les événements qu'on fait dans les villes autour du sport planète, et puis les éco-aventures. Donc, c'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est notamment dans la région Hauts-de-France d'intervenir dans un maximum d'écoles avec des subventions aussi. On a des subventions publiques, on a des subventions privées. Tu vois, je te parlais de la Maïf qui est pour moi un partenaire essentiel qui est là depuis 2 ans et qui nous permet de construire aussi des choses. Au-delà de l'aspect financier, c'est aussi de toutes les connexions qu'ils ont sur tout le territoire parce que ils ont un super maillage et ça, c'est incroyable. Et puis après, bah, c'est aussi construire des événements avec les villes, voilà, sur comment tu vas sensibiliser avec des événements en grand public sur ces sujets-là. Et puis les éco-aventures, où le but, c'est de dire que je suis pas le seul éco-aventurier. Là, on avait Benjamin aussi l'année dernière qui a fait 12 marathons en 13 jours et qui a fait des sensibilisations, de se dire aussi que ça peut être un autre sport. Donc l'année prochaine aussi, là en 2020, enfin pas l'année prochaine, mais en 2023, on va avoir aussi Aline qui va faire aussi quelque chose en rando. Enfin voilà, on aura Charlie qui va faire des choses en vélo. Donc c'est vraiment ces trois piliers-là qu'on essaie de faire avec association qu'on essaie de développer, tout en se disant que ce qu'on a comme rémunération, c'est des partenariats aussi à la fois publics ou privés, mais on est hyper vigilant justement aux partenaires qui nous accompagnent, justement parce que ça, c'est un vrai sujet aussi, et tu as des gens qui peuvent s'acheter une image par rapport à ça, mais en tout cas c'est largement viable. Et puis après, parce que je dis souvent aussi aux villes, etc., que pendant longtemps, je pense que les sujets environnementaux, ça a été des sujets de bénévolat, et c'est bien encore qu'il y ait du bénévolat. Mais maintenant aussi, bah, il faut aussi que ça soit rémunéré, parce que c'est un sujet qui doit devenir en fait important. Et pour moi, si ça reste du bénévolat, malheureusement, c'est pas placé au premier degré, alors que ça devrait l'être. Et le jour où on aura pu faire ça, c'est qu'on aura gagné. Moi, ça me va très bien. Mais en tout cas, ouais. Et à côté de ça, bah, j'ai la chance de. Alors, ça fait en effet 2 ans que je pars longtemps. Je continue à gérer tout le développement de l'association, même quand je suis en éco-aventure. Mais l'année prochaine, c'est vrai que tu vois, en 2023, typiquement, ça fait 2 ans. Ça va faire 14 000 bornes en 2 ans avec 2 éco-aventures. Et du coup, je vais. Comment dire? Cette année, je vais faire encore des éco-aventures, mais plus courtes. Tu vois, j'ai un gros projet là. Qui va durer 1 mois maximum, qui sera à battre le record du GR34. Mais voilà, l'année prochaine, je vais un peu plus me timer, où je vais faire des trucs 1 mois maximum et plus 4 mois, parce que c'est vrai que c'est aussi énergivore, mais c'est hyper intéressant et je suis hyper content de ce qu'on a réussi à tisser avec l'association pour sensibiliser et tout en réussissant en effet à gagner ma vie et à faire des choses qui ont du sens, quoi.
Non, mais je crois que c'est important de le dire parce que c'est vrai que si tu faisais ça en plus de tout ce que tu avais à gérer à côté, bah, des fois ça passe à la trappe en disant oui, mais j'ai pas le temps, faut d'abord que je fasse ça, ça, ça. Et c'est aussi ça, le fait de pouvoir le faire, de consacrer du temps, c'est aussi de pouvoir monter ce genre de projet, de pouvoir avoir du temps, de faire les sensibilisations. Et c'est important aussi que ça fonctionne comme ça, et c'est important de le dire. T'as bien fait d'en parler de l'association. Moi, je mettrai bien sûr tous les liens, mais tout le monde peut rejoindre l'association et t'aider et vous aider pour faire passer ce message.
C'est ça, ouais, tout le monde peut adhérer à l'association. Tu peux adhérer d'ailleurs à partir de 1 euro symbolique, ou alors être en mouvement aussi en mettant un peu plus. Tout le monde peut adhérer. Donc ça, c'est aussi vraiment dans la région de France. Et puis après, on a même nationalement, tu vois, une association avec laquelle on travaille aussi qui s'appelle Match for Green. Et voilà, sur le territoire qui agit sur tout le maillage en France. Et donc, ouais, tout le monde peut nous rejoindre et on invite tout le monde. Moi, ce que je dis souvent d'ailleurs, c'est en fait, c'est qu'on est dans, on est tous dans la même équipe, c'est la planète. Donc faisons les choses ensemble. Et je sais aussi qu'en effet, il y a beaucoup de personnes qui s'interrogent sur. Qui sont aussi hein, dans cette thématique, de se dire mais j'ai conscience en fait de tout ça, et de me rendre compte aussi que d'ailleurs il y a Bon Pote qui parle très bien de tout ça aussi, de ces sujets environnementaux, et je vous invite aussi à le suivre, et qui dit souvent aussi t'as plein de personnes qui veulent s'engager mais qui se disent mais en fait moi mon métier il est polluant, ou en tout cas j'y vois plus trop de sens, et qu'est-ce que je peux faire. Et c'est aussi leur montrer cet exemple là, c'est-à-dire que moi je suis sorti d'un truc pour construire quelque chose qui est viable, et en fait se dire aussi que même quand tu es dans une boîte aussi qui pollue encore beaucoup, justement c'est ainsi intéressant d'y rester, parce que tu peux influencer énormément. Tu vois, quand on parle des entreprises, tu peux intégrer des choses dans ta boîte pour faire bouger les choses aussi. Alors des fois c'est des petits pas, mais en fait ces petits pas ils sont hyper importants. Donc pense que tout le monde vraiment peut se mettre en mouvement et peut se dire qu'il peut agir parce que tu sortes du modèle dans lequel t'es. Et au final, moi, j'y retourne, hein, parce que je veux dire, je suis contre ça, mais tu vois, maintenant, je vais aussi aller titiller maintenant le Tour de France, etc., pour les faire bouger. Mais tu peux sortir de ce modèle-là, et puis ou alors tu peux rester dans ta boîte pour faire bouger les choses en interne. Donc, chaque pas compte, et c'est ce que je dis souvent, c'est hyper important qu'on agisse toutes et tous. Voilà.
C'est un beau message, et puis c'est vrai que allier sport et parce que si j'en reviens à mon histoire de vieillard galopant quand même, de dire prendre soin de la planète, on peut le faire aussi en prenant soin de notre corps. Enfin, les deux sont liés, parce que finalement, quand on se met à bouger plus, c'est aussi les fameux kilomètres de voiture qu'on ne fait plus si on les fait en marchant ou en vélo. Bah, c'est aussi une manière d'agir pour la planète, hein, qu'on le veuille ou non. Faire attention à mieux manger, à manger certaines choses différemment peut-être, c'est aussi une manière ou une autre d'agir pour la planète. Donc, c'est deux causes qui sont liées entre elles, qui sont vraiment très fortement liées entre elles. Et en agissant pour le bien de son corps et de son esprit aussi, on peut agir pour la planète. Et c'est intéressant, justement, cette démarche de voir que ça fonctionne comme ça. Et que moi, je le dis souvent pour les gens, parce qu'on parlait tout à l'heure de perte de poids, je disais, mais si vous remplacez votre voiture en allant juste pour chercher le pain, si vous remplacez la voiture et vous allez à pied, bah, en fait, vous faites du bien à votre corps, mais aussi à la planète.
Ah ben là tu prêches un convaincu, parce que je dis souvent, le message que j'envoie aux jeunes, c'est se bouger pour son corps et se bouger pour la planète. Et d'ailleurs, tout ce qu'on a fait pendant le Green Eco Tour, c'était moi, mon but, c'était pas d'être une demi-heure devant eux et raconter ce que je fais, quoi. C'était, on a fait des jeux justement pour les faire bouger tout en leur apprenant des choses. Et pour moi, ça, c'est hyper important, parce qu'en effet, moi qui ai été obèse et qui ai perdu beaucoup de poids et après qui suis passé dans l'anorexie, enfin voilà, c'était pour moi ce message-là hyper important, parce que en plus, quand j'ai fait STAPS, tu vois, en première année, je voulais faire prof de sport. Et en fait, quand j'étais voir les gamins et que j'ai fait mes stages, je me suis dit, mais en fait, je peux pas, ils veulent plus bouger, ça me saoule. Et du coup, c'est pour ça qu'après je suis parti dans le management du sport, mais maintenant du coup j'y reviens parce que j'interviens dans les écoles en tant qu'intervenant extérieur. Et c'est vrai que c'est poignant, parce que quand on parle avec les profs de sport, il y a des vrais problèmes d'obésité, etc., là, chez les jeunes, et parce que aussi, bah, voilà, ils sont vraiment sédentaires. Et donc, ouais, leur faire passer ce message-là, c'est hyper important. Et encore une fois, ouais, tout est lié. C'est-à-dire que quand tu fais attention à ce que tu manges, quand tu manges plus local, etc., mais tu fais attention à la planète. Et donc, vraiment, c'est pour ça que nous, avec l'association Sport Planète Santé, tout est hyper lié. Parce que quand tu fais toutes ces connexions-là, bah, tu fais attention à tout, quoi. Et en effet, être bien soi-même, c'est être aussi bien avec la planète et regarder ce que tu as autour de toi, quoi. Donc, tout est lié, et ça, faut jamais l'oublier. Et c'est pour ça aussi qu'il faut jamais aussi oublier tout ce qui est liens sociaux, parce que c'est ces liens-là aussi qui font que tu fédères, quoi. Tu peux pas faire ton truc dans ton coin, tu peux pas avoir des messages où tu t'écoutes pas les autres aussi, enfin, je veux dire, où t'es extrémiste dans ce que tu dis. Enfin, voilà, c'est pour ça que j'essaye aussi de faire passer les messages de façon positive, parce que si tu fais passer les messages de façon négative, de toute façon, ça marche pas. Donc, voilà, on essaye d'entraîner, et je pense que vraiment le mouvement, c'est vraiment le mouvement, c'est ce qui fait bouger les choses. Donc, c'est ce que j'aime aussi beaucoup dans tout ce que tu racontes à chaque fois dans tes podcasts. Et voilà, cette notion de mouvement et de se bouger, c'est essentiel, quoi.
Oui, et puis tu parlais des jeunes, mais c'est vrai qu'il y a une stat qui est hallucinante sur les jeunes. Alors, j'ai vu aux États-Unis, mais je la répète souvent, mais qu'il y a quelques années, il y a quelques décennies, les jeunes américains allaient à 80% au lycée, au collège, à pied, et que maintenant ils y vont 80% en voiture. Mais on peut regarder les stats, parce que ce matin j'ai amené ma fille à l'école et il y avait une maman qui était super pressée, qui a failli nous écraser quand on a traversé la route et tout, qui accélérait absolument, je me suis mis de la route pour justement bloquer les voitures. Et je disais, bah regarde, elle vient de lâcher sa gamine devant l'école, hop, vite, maintenant elle part en voiture à son boulot, etc. Avec ma femme, nous on partait marcher, tu vois, on disait, mais est-ce qu'on a beaucoup de parents qui vont marcher comme ça, qui prennent le temps de marcher, qui peuvent avoir la chance de marcher et tout. Et c'était une réflexion qu'on s'est fait sur là-dessus. Et je disais, ouais, bah regarde la voiture, justement, comme elle partait à toute vitesse. Et c'était dans cette vitesse, dans cette notion de temps dont tu parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que les parents, le matin, on a parlé avec un invité aussi en disant comment les gamins, les trimballes de droite à gauche, toujours à lutter contre le temps, et ils sont posés en voiture, on va les chercher en voiture, on va au plus vite possible, on essaie toujours de gagner du temps. Et en même temps, on se rend compte que le sport, ce que demande l'OMS, on en parlait avec Laure il n'y a pas longtemps, il faudrait que 3% de notre temps de notre journée soit consacré à bouger pour qu'on se sente mieux et qu'on ait notre dose de sport dont on a besoin. Et 3%, ça paraît rien, et pourtant, comme tu disais, on ne prend pas le temps de le faire. et comment on prend pas le temps de faire plein de choses. Alors un jour il va falloir qu'on regarde où est-ce qu'on met ce temps, en tout cas. Mais voir que toi, en tout cas, t'as pris du temps pour aller courir, pour aller discuter, pour échanger, qu'il y a des bénévoles autour de toi, qu'il y a plein de gens qui se mobilisent autour de ça, c'était aussi important pour moi de le mettre en avant, parce que c'est ça fait partie aussi des projets qui montrent qu'on peut bouger, qu'on peut sensibiliser. Je sais pas si quand t'as fini à Bruxelles, si qui t'a rencontré là-haut, parce que c'est le pays des lobbies et pas que des lobbies qui veulent que les gens bougent, hein. Tous les lobbies, je sais pas comment ils t'ont reçu là-haut.
Bah, au Parlement, pour le coup, au Parlement européen, vu que ça s'est fait complètement à l'arrache et c'est marathon en plus, on a prévenu une semaine avant, donc on a pas pu rencontrer, en plus ils étaient tous à Strasbourg en fait au Parlement européen, donc voilà, on fait vraiment une photo symbolique et voilà, c'est dommage, on n'a pas pu y aller, mais on y retournera certainement, parce que en tout cas à Bruxelles on a rencontré quand même beaucoup de gens qui se bougent et on va essayer d'y retourner pour faire un gros truc à Bruxelles, mais c'est clair que oui, t'as tous ces lobbies aussi qui sont compliqués à bouger, mais ouais, c'est, mais ouais, pour moi c'est cette notion de temps, tu vois, et au final la femme qui a amené sa gamine ou son gamin en vitesse, elle a peut-être pas en plus forcément gagné du temps, parce que des fois en y allant en vélo ou en marchant, tu vois peut-être des fois plus vite, et c'est que le nombre d'écoles aussi où maintenant c'est juste devenu un parking devant l'école pour déposer les gamins. Et en effet, tu te parles de 3%, et on dit que là, les gamins de 5 à 17 ans, faudrait qu'ils pratiquent au moins 30 minutes, voire une heure de sport par jour pour se bouger. Et ce que je leur dis souvent, c'est important, c'est démystifier aussi cette façon de faire du sport. Il y a plein de gens aussi qui se disent, je fais du sport, donc c'est de la compétition. Non, en fait, c'est déjà rien qu'en effet aller marcher ou faire du vélo et aller se balader, ça c'est du sport, en fait, tu te bouges, quoi. Et c'est souvent ce que je dis aux gamins, parce que c'est vrai que sinon, après, c'est souvent rallié à la compétition. Et donc, ouais, cette notion de prise de temps, de prendre du temps, elle est importante, et c'est vrai que ouais, voir aussi tous les gens aussi qui m'ont accompagné aussi en courant, tu vois, en vélo, je me souviendrai tout le temps aussi de ce qui s'est passé à Luçon, où il y a des tas de personnes qui m'ont accompagné, qui ont bloqué les routes à Luçon pour qu'on passe tous, enfin tu vois, c'était géré avec la mairie, tu vois, mais c'était hyper cool, parce que voilà, ils ont pris le temps pour m'accompagner, pour échanger, et donc c'est bien, parce que tu vois que ce que tu fais, les gens me demandent souvent si t'as l'impression d'avoir laissé une vraie trace, etc. Et ouais, la trace elle est là, quoi. La trace elle est de relier, tu vois. Luçon, ils ont fait, après ça, ils ont fait un village entre associations pour sensibiliser les gens. Et c'était la première fois où ils arrivaient à tous se réunir ensemble, tu vois. Et ils se sont dit, tous les ans on va faire ça. Cool. Et vous avez pas besoin de Nicolas Vandenelsken pour vous réunir chaque année. Mais si j'ai pu impulser ça, tant mieux. Et ouais, c'est cette notion de relier. Et puis en effet, chez soi, tu vois, tu parlais des parents, etc. Mais maintenant aussi, c'est cool aussi d'aller voir ses voisins, d'aller parler avec eux, d'aller parler avec les parents, d'essayer de prendre le temps, même s'ils sont tous en voiture. Enfin voilà, de fédérer tout ce tissu local aussi pour voir aussi localement comment on fait pour mieux vivre ensemble, quoi.
Ouais. Et d'ailleurs, ça me rappelle, dans mes recherches en marketing, j'ai beaucoup lu le livre sur la persuasion. Il y a un truc qui marche très bien, c'est quand ton voisin fait quelque chose, t'es plus incité à le faire toi-même. Ça fait partie des choses qui sont extrêmement importantes, que peut-être les uns et les autres on constate quand on court, en disant, tiens, à force de me voir courir, il y a mon entourage qui commence à vouloir courir. Alors ça marche pas pour tout le monde, mais ça marche pour certains, et on peut se dire qu'en fait on peut le faire pour plein de choses. Mais c'est vrai, pour le vélo, pour la voiture, pour amener ses enfants à pied si on peut, pour aller chercher le pain à pied, pour faire plein de choses qu'on pourrait imaginer comme ça. Et c'est pour ça que chaque petit geste que l'on fait n'est pas inutile, il a une utilité, ne serait-ce que parce que c'est un maillon qui permet de faire grossir une goutte d'eau qui fait grossir une grosse vague. Donc voilà, ça fait partie des choses. Et c'est vrai que en persuasion, et il y a des gens qui savent très bien le gérer, hein, c'est les assurances, les gens qui font de la vidéosurveillance et tout, ils mettent tous les panneaux sur les maisons pour montrer, si mon voisin il a fait ça, toi tu devrais le faire moi aussi. Ça marche aussi pour le sport, ça marche aussi pour ces petits gestes, et c'est important de le rappeler.
Ah ben, complètement, et c'est vrai que c'est pas toujours mesurable. Mais c'est vrai que c'est ça, et rien que dans le sport, en effet, moi, le nombre de personnes où je suis passé, où ils disent, il y a un mec qui est complètement barré, qui fait 42 km par jour, le nombre de personnes qui m'ont dit, on a fait du vélo hier, on s'est remis à courir, finalement, voilà, ils comparent, ils disent, on peut au moins faire ça, et c'est clair que ouais, c'est par mimétisme, ça marche beaucoup par mimétisme, et donc c'est, voilà, encore une fois, dites-vous que tout ce que vous faites, c'est utile, et ça, c'est important, ouais.
Bon, eh ben écoute, le mec complètement barré, en tout cas, c'était super sympa de discuter avec toi. C'est vrai que ça paraît barré, hein, quand même, de dire je vais faire 110 jours, 110 marathons. Quand j'ai dit ça à ma femme ce matin, elle m'a dit quand c'est possible. Et puis te voir, hein, t'as une bonne tête, t'as pas l'air en mauvaise santé ni rien, t'as l'air en pleine forme. Donc comme quoi c'est possible. Et on le répète, hein, y a un Anglais qui a fait 365 marathons en 365 jours. Je pense à d'autres qui ont fait une bonne partie du tour du monde en courant comme ça. D'autres qui le font depuis des années, des années. Donc comme quoi notre corps est capable de le faire, même si on disait attention, il faut que le corps se repose. Bien entendu, on l'a dit, hein, c'est est-ce que ça serait faisable un an comme ça, à ce rythme-là, avec les interventions d'école ? Ça, c'est une autre question. Je sais pas, t'es tenté un jour de le faire, ça, 365 en...
Hier, on m'a titillé justement sur ça. Ça pourrait me titiller l'esprit. Après, on va déjà se faire ce que j'ai à faire. Tu vois, là, le GR34 à 80 bandes par jour, ça va déjà être aussi pas mal. Mais peut-être après, ce que j'arriverai autant en effet à sensibiliser. Tu vois, c'est ça aussi, c'est dans le temps. C'est surtout ça où c'est pour moi, c'est hyper important. C'est surtout par rapport à l'action qui est derrière. Donc. Ça pourrait me tenter, mais écoute, on verra si un jour ça me titille l'esprit, mais on va surtout continuer à sensibiliser en même temps, et c'est ça qui sera important. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que, encore une fois, on va me prendre peut-être pour un barré de dire ça, mais quand tu as fait 110 marathons en 110 jours, en effet, moi, enfin, vu l'état dans lequel je me sens actuellement, j'aurais pu continuer, et je me dis qu'en effet, oui, enfin, c'est ouf, hein, ce qu'il a fait, 365 marathons, on va pas se mentir, et puis c'est pas accessible pour tout le monde, mais en tout cas, moi, je me dis que comment je me sens là physiquement, ça peut être possible. Après, voilà, on a tous des métabolismes différents, etc., mais en tout cas, c'est possible tant que t'y crois déjà aussi. Et puis encore une fois, t'as des corps qui sont plus ou moins bien faits. Et moi, tu vois, j'ai aucun souci. Alors peut-être que, encore une fois, je dis pas à tout le monde, peut-être que dans 5 ou 10 ans, je le ressentirai plus sur mes articulations. Mais en tout cas, je mets au moins mon service, mon corps au service de ce que je défends. Et voilà. Et puis croyez en vos rêves. Et puis ça, c'est hyper important. Et puis essayez de faire passer des messages avec tout ça. Mais voilà, c'est top de réaliser tout ça.
Ouais, c'est une belle conclusion, et on rappelle qu'on n'est pas obligé de courir un marathon tous les jours pour adhérer à l'association, qu'il y a plein d'autres moyens d'agir, hein, et tout. Et en tout cas, alors, ce que je vais faire, c'est que je mettrai bien entendu tous les liens dans les notes de l'épisode pour que les gens puissent voir, justement, les sites, tous les liens. C'est où le mieux pour suivre tes aventures et suivre celles de l'association?
Y a le site internet là qu'on va un peu plus actualiser, donc je pense que vous pourriez y aller, c'est universport.fr. Et puis après il y a les comptes Instagram aussi, on est pas mal présent, à la fois le compte Instagram de Green Nicotour, et donc ça c'est plus pour me suivre personnellement sur ce que je fais, et puis après le compte Instagram de l'association Universport. Et puis voilà, c'est déjà bien. Bon, après, j'ai aussi LinkedIn pour ceux qui sont plus sur les réseaux professionnels, où là, je suis très présent en tant que Nicolas Van Den Elsken. Et puis voilà. Et puis, ouais, je vous invite du coup à suivre, parce que je pense que le film aussi va être important pour ceux qui veulent voir comment ça s'est passé de l'intérieur. On va voir combien de temps ça va prendre avec Jérôme. Je vais pas annoncer de date maintenant, mais on va vraiment essayer que ça soit fait le plus vite possible, et tout en faisant en sorte que ça soit bien fait. Et d'ailleurs, les vidéos qu'on a faites, les petites séquences, vous pouvez les retrouver sur un article sur le site internet, aussi sur les réseaux sociaux, pour voir aussi comment ça s'est passé de l'intérieur. Et en effet, dites-vous que tout le monde peut agir, c'est pas forcément que la course à pied, c'est les clubs de hand, enfin tous les clubs, enfin tout le monde en fait, toutes les associations sportives aussi, elles peuvent agir à leur échelle, et sur ça on peut aider un maximum de personnes à passer dans la transition, donc voilà, c'est hyper important.
Eh bien écoute, c'est une magnifique conclusion. Bien sûr, je mettrai tous les liens dans la note de l'épisode pour qu'on puisse suivre, hein, pour les gens qui veulent encourager, qui veulent participer, qui voudraient peut-être rejoindre, parce que c'est souvent une question que j'ai. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais j'aimerais bien courir pour une association, mais je sais pas trop laquelle, et certaines causes des fois parlent pas. Et c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des maladies, des causes de maladies qui parlent pas. Alors, la semaine prochaine, l'épisode, on parlera d'une maladie en particulier. Mais des fois, on voudrait avoir d'autres causes, et tu vois, hop, ton association fait partie, c'est une autre cause que les maladies et autres. C'est aussi la planète qui est malade. Mais c'est une manière d'agir, hein, sur d'autres aspects. Et il y a plein de gens qui se demandent comment rejoindre des associations, qui se demandent comment participer, comment aider, comment participer à un mouvement plus grand qu'elles pour pouvoir démultiplier leur effort. Et ben écoute, je pense, hein, que j'espère, je croise les doigts en tout cas pour toi, que certaines te rejoignent dans les aventures. En tout cas, moi je vais continuer à suivre ce que tu fais. Je regarderai bien sûr où tu vas poser tes baskets les prochaines fois, parce que tu passais pas par chez moi en fait, ton petit tour là. Par là où je passe en vacances, hein, mais pas aux périodes où j'y étais. Mais écoute, je surveillerai. Et puis j'ai vu qu'on avait plein d'abonnés en commun, donc avec plein de gens qui sont déjà sensibles à ce que tu fais, à ton association, à ce que tu fais, et donc qui, je pense, qu'ils seront ont été contents d'entendre aussi de voir les ton engagement autour de ces causes-là. Et je te remercie beaucoup pour le temps passé avec moi, pour et avec nous, pour nous expliquer tout ça. Je trouve que c'était une super manière de débuter l'année. Tu vois, c'était le vraiment donner le là de cette nouvelle saison. Et je te remercie beaucoup.
Bah écoute, merci à toi Bertrand, c'était hyper, hyper cool d'être avec vous, et puis j'espère en effet que ça pourra, ce témoignage pourra aussi inspirer des gens, et puis en tout cas faire passer à l'action un maximum de personnes. Donc merci pour tout, et puis comme d'habitude, finis sur ça, c'est vive le sport, vive la planète, et puis vive la santé aussi, et bonne année 2023, voilà.
Et ben voilà, et ben écoute, c'est une magnifique conclusion. Je vous donne moi rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et avant, bien sûr, le conseil, la minute perf, etc. Enfin, maintenant, il y a 3 épisodes par semaine. Donc, vous en avez l'habitude. 2023, on ne change rien là-dessus. De toute façon, on va tous devenir champions du monde de notre monde. Des vieillards galopants sur une planète où on a envie de vivre, hein, grâce à des actions comme ça et grâce à nos actions à tous. Merci beaucoup, Nicolas, et à la semaine prochaine. Ciao, ciao!